On ne va pas se mentir, avec Baya Carla et sa bande, tous les samedis de 15h30 à 17h sur Radio Courtoisie.
Bonjour à tous et bienvenue dans On va pas se mentir. Très chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver ce samedi comme chaque semaine de 15h30 à 17h. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Le plateau est assez costaud. J'ai le plaisir de recevoir André Berkoff, journaliste, essayiste, une plume et une voix qu'on ne présente plus. Toujours aussi affûté pour décrypter l'actualité sans langue de bois. Bonjour André, merci d'être avec nous.
Bonjour.
C'est un réel plaisir.
Je suis ravie d'être là.
Ah, bah si vous êtes ravis...
En plus, je vais vous dire, j'adore, on ne va pas se mentir, parce que le mensonge fait partie des vertus les plus éculées. Donc c'est très bien.
Nous avons également la chance de recevoir Sardoche. Vous êtes l'une des grandes figures du streaming français, connue pour votre parcours dans l'e-sport League of Legends, avant de devenir l'un des streamers les plus suivis de Twitch. Un regard différent, plus ancré dans la génération connectée. Bonjour à vous et merci d'être avec nous.
Salut à tous, merci beaucoup de m'inviter, c'est un plaisir, un honneur.
Merci. Ouais. Armand, comment ça va?
Merci de m'inviter, je suis très heureux d'être là.
Vous revenez d'un mariage ou vous avez un mariage après?
Allez, ça commence.
Qu'est-ce qui se passe?
J'étais pas la semaine dernière, j'étais assez triste et finalement je me dis je regrette peut-être de ne pas être là. Et non, je suis heureux d'être là.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va toujours.
Toujours?
Toujours.
La forme?
On a du monde, hein.
Là, franchement,
là,
on a un plateau d'exception.
C'est une vraie émission.
Là, c'est une vraie émission. Ouais. Franchement, j'espère que vous n'avez pas regretté d'être venu.
Pour le moment, tout va bien. Comme dit le type qui tombe du 60e étage, donc au 40e, tout va bien.
Pour l'instant, tout va bien.
Sardoche, encore une fois, merci d'être avec nous. Vous venez d'un univers que l'on connaît moins sur cette antenne, celui du streaming. Comme je vous l'ai dit, vous êtes ancien joueur professionnel de League of Legends, devenu l'un des streamers les plus suivis de France sur Twitch. Nous allons parler de votre parcours, de la façon dont vous abordez l'actualité avec votre communauté et de ce que ça change d'avoir une telle audience. Comment on passe du monde de l'e-sport à devenir une voix qui commente l'actualité pour des centaines de milliers de personnes?
Alors ouais, l'e-sport c'est toujours un petit peu mon domaine, dans le sens où je joue toujours aux jeux vidéo en compétition. Et c'est surtout devenu un prétexte pour réunir des gens qui viennent regarder du gameplay, donc de la stratégie pure, mais à côté de ça, y a toujours c'est du direct, hein. On est en direct, donc je lis le chat, je réagis à ce que disent les gens. Et bien évidemment, on peut pas passer à côté de l'actualité parce que les gens vont dire « Oh, t'as vu ce qui s'est passé sur machin ? T'as entendu la dernière nouvelle de, bon, par exemple, Manon Aubry tout à l'heure ?» On en parlera tout à l'heure, mais c'est toujours marrant de pouvoir voir l'attitude des gens vis-à-vis de l'actualité et surtout que c'est un panel de personnes qui est extrêmement diversifié parce que je les fais venir pour autre chose que l'actualité, donc il n'y a pas ce filtrage par rapport à mon opinion politique et après, ils viennent écouter mon avis. Il y en a que ça énerve, c'est avisé, il y en a que ça plaît, il y en a qui ça plaît, voilà, on arrive à avoir quelque chose de génial parce que...
Il y a certains auditeurs qui ne savent pas ce que c'est Twitch, est-ce que vous pouvez un peu l'expliquer pour les personnes les plus âgées?
Twitch est la plateforme la plus populaire actuellement de vidéos en direct, c'est-à-dire qu'on parle de... Donc la télé c'est en direct, mais la télé, on a ce truc où on n'a pas cette cohabitation entre les spectateurs et les créateurs de contenu. Sur Twitch, on est en constante discussion avec les personnes qui regardent le contenu, puisqu'ils peuvent réagir dans un chat. Et ça fait partie intégrante du contenu d'un streamer de réagir à ce que dit ce chat. Donc forcément, ça change complètement la donne par rapport au contenu. On est obligé de réagir en permanence, de donner son avis, des fois de dire qu'on n'est pas d'accord. Et d'ailleurs, de plus en plus, les streamers ont du mal à dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que disent leur audience. C'est un gros problème.
André, vous suivez un peu des streamers sur Twitch?
Moi, je vous dis, vous dites que c'est nouveau, non. En 65, c'était Twitch again, like we did last summer. Twitch again, like we did last year. Non, mais c'est vieux comme le monde, ça. Non, mais c'est très bien. Parce que je trouve formidable dans les réseaux sociaux, c'est vrai. Et Twitch en particulier, mais les autres, c'est l'instantanéité. Cette espèce de formidable présence. Alors après, on dit oui, mais on n'a pas le temps de réfléchir. Si, parce que on donne tout le temps d'aller au-delà de l'écume. Donc, je trouve ça plutôt très bien.
Vous aimeriez être sur Twitch?
Ah, écoutez, moi, mon rêve est d'être sur Twitch avant de disparaître, je veux dire.
Avec grand plaisir.
Moi, mais oui. Non, mais franchement, vous savez que c'est la première fois dans l'histoire que les réseaux sociaux ont l'audience des réseaux sociaux a dépassé l'audience des mainstream. C'est quand même une première et c'est récent. Donc, c'est pas par hasard aussi.
C'est dû à quoi, à votre avis, Sardoche?
Que les gens ont besoin de plus en plus de spontanéité. Je pense qu'il y a une certaine défiance, un scepticisme permanent des médias mainstream. Les gens, peut-être, selon leur expérience de vie, ont réalisé que peut-être on leur mentait, ou alors tout simplement, ils ont une accessibilité plus simple à certains médias, et ouais, ils plongent dedans.
Elliot, vous voulez
Je pense que c'est surtout le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on veut choisir. La télé, on ne choisit pas le flux, on choisit la chaîne, mais on ne choisit pas le contenu. Là, on peut choisir. quand est-ce qu'on veut regarder, ce qu'on veut regarder, l'idéologie politique. S'il n'y a pas d'idéologie politique, on, comme on peut choisir, on va vers des médias qui nous permettent de choisir ce qu'on veut. Et c'est ça aussi, les années 2000, c'est pouvoir choisir ce qu'on aime et ce qu'on veut.
Est-ce que vous avez l'impression d'être un peu le seul, parce que vous défendez des idées qui sont un peu différentes de vos confrères streamers? Comment vous sentez-vous dans cette sphère?
Alors, moi, j'ai toujours eu l'impression d'être ostracisé parce que depuis, allez, on va dire 2017-2016, j'ai pas mal d'intuitions libérales. C'est-à-dire que je vais questionner la retraite par répartition, je vais questionner le fonctionnement du système français de manière générale, je vais questionner certaines choses qu'on nous a apprises dans l'éducation nationale, etc. Et en fait, tout ça fait que ouais, j'ai souvent eu des énormes dramas, des gens qui ont commenté ce que je disais, qui m'ont insulté. Et j'avais quand même l'impression d'être dans le vrai, d'avoir le droit de dire ce que je disais. Donc je me disais, mais c'est quand même très étrange, quoi, que je sois autant pointé du doigt. Et je pense juste que, ouais, on a trop normalisé sur les médias, en tout cas mainstream, qui sont constitués intégralement d'influenceurs, qui globalement n'ont un peu rien à faire de la politique, sont apolitisés, mais vont se donner une énergie de personnes de gauche bien vertueuses comme il faut.
Bah, on peut citer Squeezie, par exemple.
Ouais, mais pas que, non, pas que. Non, mais juste
dans l'un des plus connus.
Non, mais c'est même pas qu'ils sont politisés, c'est qu'ils prennent des... Ils suivent le cours du vent, voilà, juste pour avoir la position qui est la plus confortable. Ils prennent aucun risque.
Le cours du vent ou les... Comment dire? Ceux qui vont regarder le plus? Parce que ça attire plus peut-être d'être à gauche maintenant,
non,
sur Twitch ou pas?
Non, en fait, c'est même plus simple que ça. C'est quelle est la posture qui me donnera le moins d'harcèlement?
Armand, vous n'êtes pas d'accord avec Elliot?
Non, c'est pas ça. C'est que pour moi, déjà, c'est un éternellement recommencement. Tout à l'heure, on présente Twitch comme si c'était quelque chose d'extraordinairement nouveau, etc. C'est nouveau en termes de plateforme, c'est nouveau en termes de concept, mais c'est pas du tout nouveau. Il y a des émissions, et je parle sous le contrôle d'André, comme Droit de Parole ou autre, qui offraient la même liberté, la même spontanéité,
droit de réponse.
Droit de réponse, pardon, effectivement. Mmh. Donc, ce genre de... je pense que juste, c'est un retour des choses. C'est-à-dire qu'on veut retourner, effectivement, à cette proximité, à ce contact direct, à cette confrontation, à cette liberté de parole que la télé aseptisée n'offre absolument plus aujourd'hui. D'où le changement de canal. En ce qui concerne la gauche, etc., oui, parce qu'en fait, la télé commence de plus en plus à s'emparer d'Internet. Des grosses sociétés comme Webedia et autres sont en réalité des sociétés de production de télévision qui malheureusement se déversent sur ces plateformes qui sont assez libres et qui les empoisonnent petit à petit, à petit feu. Squeezie et autres sont contrôlés parce qu'ils ont des sponsors, parce qu'ils ont tout ça, ils veulent pas
oui,
perdre leurs
sponsors. C'est une question d'argent, c'est même pas
une question d'argent. Je pense que la majorité d'entre eux ne sont même pas de gauche et c'est oui, une posture qu'ils prennent pour éviter de perdre des contrats, c'est tout.
André, vous en pensez quoi des propos d'Armand?
Écoutez, d'abord, je voudrais rappeler que être dans le vent, c'est une idéologie de feuille morte. Je vais dire ça. Les personnes qui essayent d'être tout là, on va être dans le vent. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Le vent, il souffle où il veut, donc c'est vraiment n'importe quoi. Non, je crois que effectivement, vous avez aujourd'hui des modèles économiques totalement différents. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est ce qui s'est créé vraiment. Vous voyez, par exemple, on parlait capitaliste, à bas les riches, à bas les riches. Sauf qu'un riche comme Elon Musk n'est pas du tout un riche comme Mathieu Pigasse. Pas du tout la même chose. Et je prends Mathieu Pigasse pour en prendre d'autres. Donc, la lutte de classe est aussi à l'intérieur de ces gens. Il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer. Vraiment. Regardez X qui a permis, enfin, on va peut-être en parler de Citizen Vigilante, par exemple, et autres. Non, mais c'est très intéressant de voir le changement de paradigme qui s'est passé, le bouleversement entre effectivement quelque chose qui n'avait pas du tout prévu. Si vous voulez, le système était assez bien verrouillé. C'est-à-dire, il y avait les radios, les télévisions, tout ça, on savait à qui appartenait. Et arrivent ces espèces de petits trucs qui arrivent de partout. Alors, quelques-uns qui marchent, d'autres qui se cassent la gueule, mais comment on va les contrôler? Et on voit très bien, regardez les efforts de Thierry Breton, regardez Digital Service Act, regardez tout ça. C'est-à-dire, on veut les contrôler. Sauf que c'est très difficile à contrôler, je crois.
Vous vouliez réagir?
Non, je suis complètement d'accord avec lui. C'est vrai que déjà, oui, les gens qui suivent le cours du vent sont... c'est la feuille morte, c'est parfait comme métaphore. Maintenant, franchement, c'est juste parfait. Ouais, non.
N'hésitez pas à parler, vous êtes impressionné.
L'expérience a parlé.
Je voulais vous partager un coup de cœur avant de continuer. C'était mardi dernier, j'étais au concert de Nils Rogers, invité par la famille de mon copain. Pour rappel, Nils Rogers, pardon, c'est un nom anglais, j'ai du mal. C'est ce genre de morceau cultissime. She's up all night to the sun, I'm up all night to get some. She's up all night for good fun, I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun, we're up all night to get some. We're up all night for good fun, we're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky, we're up all night to get lucky.
C'était
très long. Ou encore ça.
Ah, ça, c'est bien.
Le refrain suffit, hein.
On l'a tous.
C'est bon. Vous, j'espère que vous avez profité de
cette interlude musicale.
Et donc le concert reprenait des morceaux de Chic et des Daft Punk, et ça m'a fait réfléchir plus largement à notre rapport à la fête, à la musique ou encore à l'insouciance. Avant sortir, c'était se lâcher, danser sans se poser de questions, vivre l'instant sans le filtrer. Il y avait une liberté, une joie de vivre presque naturelle. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, quand je sors, de voir que des gens anesthésiés par la vie. J'ai l'impression,
anesthésié par la vie.
J'ai l'impression que les jeunes ne s'amusent plus. Alors vous allez à des concerts, là j'ai vu hier, c'était quand même une tranche d'âge, on va dire 35-60 ans, il y avait beaucoup de parents avec leurs enfants, j'ai trouvé
mais c'est
ça
pas les jeunes ça.
Formidable. Non, ouais. Ça c'était pour mon ouais. exemple sur les personnes un D'accord. peu plus âgées. Aucun téléphone. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être 3 téléphones qui filmaient, mais ils vivaient vraiment le moment.
Dans vous, Bayan.
3... Moi, j'ai tout filmé, en revanche, pour mes réseaux sociaux. Mais il y a 3 mois, je suis allée au concert de Tame Impala, donc là, c'est un public un peu plus jeune, exceptionnel. Et là, par contre, il n'y avait que des téléphones et les gens ne dansaient oui. pas. J'ai l'impression qu'il y a... Je ne sais pas ce que vous en pensez, Elliot.
Bah, toujours la même chose. Hein. On va revenir à mon combat habituel. C'est trop cher. C'est pour ça que les jeunes ne peuvent pas y aller. On ne peut plus se permettre d'aller à des concerts parce que quand une place coûte 80 euros, que on veut voir des artistes américains ou étrangers, que ça coûte pour le Stade de France ou pour Bercy entre 110, 130, 160 sans être en carré or, bah aujourd'hui on doit choisir entre se nourrir ou aller en concert. Bah on met de côté ces activités annexes qui nous font plaisir. Voilà.
Moi j'ai plus l'impression que la jeunesse est actuellement en dépression. C'est-à-dire que c'est pas une histoire pour s'amuser. On n'a pas besoin non plus d'être richissime. On n'est pas obligé d'aller dans des concerts.
Bah oui, mais...
Je parlais d'un état général de la jeunesse. Ah mais...
oui,
allez-y, vous voulez dire quelque chose.
J'ai l'impression qu'aujourd'hui les réseaux sociaux nous, on voit tout au travers des réseaux sociaux. C'est-à-dire que si on a envie d'aller à un concert, c'est parce qu'on a vu une vidéo de cet artiste en concert.
Oui.
On va y aller une fois dans l'année ou peut-être une fois tous les deux ans voir cet artiste qu'on suit énormément. C'est évident que les gens qui sont allés à Tame Impala sont fans de Tame Impala. Ouais. Et genre que ce qu'il l'idéalise, le sacralise. Et à partir du moment où tu sacralises un artiste et que on te fait comprendre que tu n'as pas vécu le moment, si tu n'as pas été capable de le partager sur tes réseaux, bah en fait tu vas t'imaginer comment je pourrais faire savoir aux gens que j'ai vécu ce moment, qu'est-ce que je vais pouvoir filmer pour montrer que j'y étais. Et en fait il y a une transformation de est-ce que le moment c'est plutôt est-ce que je dois vraiment le vivre ou est-ce que je dois prouver que je l'ai vécu. Donc à partir du moment où tu as ce double jeu, je pense que ça doit créer un paradoxe dans le cerveau des gens. Ils savent plus vraiment comment profiter du moment, quoi. Juste c'est tout.
André, on s'amusait mieux avant.
C'est intéressant quand vous dites ça, parce que moi, je vois les gens que je suivais, et que je suivais, moi, j'ai assisté à 10 concerts des Rolling Stones, oui. l'époque Bob Marley et compagnie, si vous voulez, et même Jim Morrison. Et même Jim Morrison, ça, j'étais tout jeune, mais ouais, ça me rappelle. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours ce côté communautaire. J'ai assisté à ce concert, c'était extraordinaire. La grande différence aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il faut que je montre que j'ai assisté à ce concert. À l'époque, on s'en foutait. On est allé, on dit, ouais, j'ai vu ça. Et j'avais pas à prouver, à essayer de prouver que j'étais là-bas, quoi. Tandis que là, il dit, attention, si j'ai pas la preuve, je vais vous montrer. Non, qu'est-ce qui se passe? C'est extraordinaire.
On avait les t-shirts avant.
Ah oui, non, oui. Regardez, d'ailleurs. Bah, Jean-Michel voilà. Bastiat. Voilà. Mais ce que j'adore aujourd'hui, regardez le truc, c'était impensable avant. Je dis pas que c'est bien avant ou mieux avant. C'est que, par exemple, vous allez au Louvre, vous avez moi et la Joconde. C'est-à-dire, le mec, il se met devant la Joconde et il se photographie la Joconde. Sa gueule a plus d'importance que la Joconde. Il faut le faire, quoi.
Non, mais je partage l'avis d'André. C'est la société de démonstration. Il faut toujours démontrer qu'on y était. Il faut montrer aux autres qu'on est important et qu'on fait des choses importantes. Alors que la vérité, c'est que tout le monde s'en fout, déjà,
c'est,
premièrement.
C'est comme moi, la majorité des soirées que je peux faire avec mes amis, ils sont tous sur leur téléphone. Et moi, j'en suis à un point où j'essaye de faire semblant que j'ai des amis, de discuter avec des gens imaginaires. J'appelle ma maman.
Alors, je veux dire, le problème, c'est que vous les intéressez pas, peut-être.
Vous allez sortir dans pas longtemps. Non, mais je trouve ça fou quand même. Je sais pas si c'est que parce que il y a le téléphone ou que les gens n'ont plus de conversation. Ou...
Après, je partage votre avis sur l'ambiance générale. Moi pas... alors là, je vais faire le nostalgique, mais le Paris d'il y a quelques années me manque. On est à Paris. Moi, je vois qu'à Paris, la fête, effectivement, n'est
ça,
pas
c'est
au
parce
rendez-vous.
Que vous avez vieilli, Armand.
Peut-être parce que j'ai vieilli, mais je continue.
Non, longtemps qu'il n'y a pas de fête.
Paris, il y a eu des belles scènes pour la fête de la musique.
Pour la fête de la musique, c'était sympa, mais je veux dire, hors faire de la musique, il y a des samedis ou des vendredis soirs, Paris n'est plus Paris. C'est-à-dire que les rues ne sont pas aussi remplies qu'avant, les terrasses de café sont vides.
Bah, depuis le
et
Covid.
Et justement, je rejoins ce que disait Eliott. La vérité, c'est que c'est un problème d'argent.
Mais bien
c'est
sûr.
Que les gens n'ont plus d'argent.
Déjà plus personne
on sort à Paris, il y a un risque de se faire agresser. Il faut être honnête. Ah. Il y a une ambiance aujourd'hui.
Insécurité,
tout de suite. Mais parce qu'il y a une ambiance qui est totalement morose.
Ça y est.
Il y a une ambiance morbide.
On attaque.
Non, je veux dire, c'était mieux avant. C'était pas mieux avant. J'aime pas du tout ce truc, c'est mieux avant. Il y a des deux choses qui sont bien et puis
il y a des choses qui sont bien. Ouais.
Mais il y a quelque chose, je veux dire, l'autre fois, on peut nommer les noms de restaurants ou tout ça.
Oui, bien sûr.
Alors, j'étais allé à L'Homme Bleu, vous savez, qui est près du. Enfin, en bas du
un restaurant très chic, en face de la Tour Eiffel.
Et moi, j'ai été extrêmement frappé par quelque chose. Moi, j'adore les restaurants, j'adore la musique. Mais la musique, j'aime bien qu'après avoir déjeuné, et je suis avec vous, j'ai envie de discuter, de vous entendre.
Ah oui, ça part en festif.
Là, ils tout foutent la musique à plein gaz. C'est-à-dire que quand je suis à côté, waouh, qu'est-ce que tu ça va pas à la tête.
Je suis d'accord.
Attends, donne-moi après. Après, j'adore, mets la musique à fond, tout ce que tu veux.
C'est comme le Batignon, c'est la nouvelle, le nouveau style de restaurant.
Voilà. Non, d'abord le digestif.
Ouais, d'abord que tu. Non, mais la conversation.
Ouais,
la
pour revenir sur ce que tu disais avec les téléphones en soirée, moi, si je fais une soirée, il y a énormément de musique, sachant que ma seule qualité, c'est peut-être de discuter avec les gens et de parler de mes passions. en fait, vu que je suis pas un mec qui danse ou qui physiquement en impose suffisamment, je vais me cacher sur mon téléphone parce que je serai un peu plus en sécurité, tu vois. Mais ne serait-ce parce que je. Ouais,
mais vous avez envie de discuter, en fait.
Alors, j'ai envie de discuter, bien sûr. Je pourrais discuter avec n'importe qui.
On a tous envie de discuter, mais personne ne peut à cause de la musique.
C'est peut-être pour ça qu'on
fait ça. Moi, ça m'a frappé vraiment. À fond. À fond, vous arrivez à 9h. Hein. 9h, 10h,
c'est pas. Deuxième service, c'est à fond.
Et alors, je dis waouh. Et alors, le mec, il me regarde comme ça. Tu dis, moi, je sens mon téléphone. Ah, d'accord. Non, mais bien. Voilà. Je déjeune. Tu vois, d'à côté.
En parlant de téléphone, on va parler réseaux sociaux. Hamzar, l'arroseur star. Coup de gueule d'Eliott.
Alors, coup de gueule, je sais pas. Je sais pas. Cette semaine, je sais pas si je suis en colère, un coup de gueule. Je sais pas contre qui, je sais pas contre quoi. Est-ce que vous avez entendu parler de la douane? Enfin, Hamzar. Ce gosse de 12 ans qui, comme son nom l'indique, fait la douane. dans la rue, au canal Saint-Martin. Pour les passants. C'est-à-dire qu'il leur permet de passer sous 2 euros. Sinon. Il les arrose, mais il les arrose, comme il dit lui, jusqu'à qu'ils en pleurent. Voilà. Moi, je comprends pas trop le principe aujourd'hui, c'est-à-dire que un gosse de 12 ans qui, mi-juin, fin juin, n'a plus école, dont les parents sont au courant, parce qu'il se vante sur les réseaux que ses parents sont au courant, qu'il prend des amendes, il a dit qu'il a pris 66 euros, 11 euros, pour se baigner, pour arroser la police, qu'ils l'ont mis en garde à vue, et il n'y a pas de suite. Il sort, il n'y a pas de suite, il récidive, sans résultat. Et en fait, je sais pas contre qui être énervé. Parce que est-ce que je dois être énervé contre l'école qui ferme trop tôt? Est-ce que je dois être énervé contre les parents et le laxisme des parents aujourd'hui? Parce que quand on a un travail et qu'on peut prendre qu'un mois de vacances en juillet ou en août, on se retrouve avec les enfants à la maison qui finissent parce qu'il y a le brevet, parce qu'il y a le bac, parce qu'il y a machin, parce qu'il y a ci, il y a ça. Des épreuves à ne plus savoir quoi en faire. Pour le niveau qu'on a, c'est-à-dire zéro, laisse des enfants qui sont en classe de 6e, 5e, sans épreuve, ou même de collège inférieur ou de primaire, partir de l'école tôt. Et les laisse dans la rue, ou à la charge des parents qui n'ont pas forcément la possibilité de les garder. Attends, qu'est-ce qu'on en fait?
Mais vous dites n'importe quoi.
Ah non, pas du tout.
Vous dites n'importe quoi. Ce n'est pas à l'école d'éduquer les enfants.
Mais
c'est aux parents.
Quand vous faites
un enfant, quand vous faites un enfant, vous avez la responsabilité de l'éduquer. L'école, c'est fait pour trois choses: apprendre, lire, compter.
C'est pas une prison pour quelque chose.
Moi, ce n'est pas une garderie.
Moi, quand j'étais à l'école, je finissais le 25 juin. J'étais pas dans la rue le 26, 27, 28,
oui, parce
29,
qu'il y a un truc,
jusqu'à...
Oui. Parce que vous aviez un truc qui s'appelait les parents, c'est
non,
pas
non,
un problème
non, d'école. Non, il y avait du périscolaire, il y avait d'autres choses. Aujourd'hui, le problème, c'est que le périscolaire, on peut pas non plus faire ce qu'on veut et mettre qui on veut là-bas. Mais il y avait du périscolaire, aujourd'hui, il n'y en a plus.
Absolument pas d'accord. Vous oubliez un truc qui existe en fait depuis des années et puis depuis toujours en fait. C'est un truc qui s'appelle l'autorité parentale. À un moment donné, quand on est un enfant, on est sous la responsabilité de ses parents. Moi, je suis désolé, j'ai envie de dire, vous savez l'expression tel père, tel fils, j'ai envie de dire l'inverse. J'ai envie de dire tel fils, tel père. Le père est parfaitement au courant des activités de son enfant. Là, vous parliez de cette douane effectivement où il arrose contre de l'argent,
oui,
des gens,
euros.
Ce qui s'appelle juste du racket, entre guillemets, hein, juste cela dit en passant. Deux, moi j'ai beaucoup suivi sur le réseau Snapchat les différentes vidéos. Ils volent, ils dégradent. Ils s'amusent de la police, c'est-à-dire qu'ils jouent avec les policiers, ils leur font
encore rire.
Il y a quand même des gens sur les réseaux qui regardent ça et qui commentent et qui likent.
J'ai regardé pour l'émission, pour le coup,
commenté.
Il y a
des gens qui le soutiennent.
Ce qu'il faut dire là-dedans, c'est que, un, c'est un voyou, et deux, je suis désolé, son père est parfaitement au courant et son père est fier. Parce que la déclaration de son fils, c'est: je suis fier de lui, mon fils est une star. À un moment donné, moi, je veux que les services sociaux aillent voir ce papa. À quel moment donné, ton fils est un voyou et toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est: je suis fier de lui, t'es un cassos, point.
Je me suis emporté. André, vous vouliez réagir.
Mais d'abord, je vais vous dire la chose la plus importante qui s'est passée, parce que j'ai suivi cette histoire, c'est que ce matin à BFM TV, il n'y avait pas Chirac, il n'y avait pas Giscard, ça c'est vieux, il n'y avait pas Macron, il n'y avait pas Poutine, il y avait texto, hein, parce que je l'ai reproduit. Il y avait BFM TV, hein, il dit ce matin, vous savez, Hamza est venu sans son pistolet à eau. Parce que le climat s'est calmé, il n'y avait plus. Je vous jure, il parlait de Hamza comme on parle de Sultanat d'Oman qui est venu à Paris. Voilà. Hamza est devenu la personnalité qu'il faut suivre. C'est ça qui est intéressant.
Hamza président. Donc,
le petit Hamza avec ses conneries. Je veux dire, évidemment qu'il est tout ce qu'on veut. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les médias et les gens s'emparent de ça comme si c'était la venue de Trump. C'est quand même énorme.
Il y a un appel du vide énorme de ce genre de sujet où on en parle. Il y a un côté spéculatif dans l'information aujourd'hui qui fait qu'on donne de l'importance à ce sujet et c'est encore plus. Après, moi, je vais vous dire, la personne contre qui il faut en vouloir, j'en rajoute une à la liste, c'est la personne qui lui donne 2 euros. Mais en fait, balancez-le dans le canal, mais qu'est-ce que vous allez avoir comme sanction?
C'est 66 euros le canal. Hein,
mais, ça, mais c'est lui qui les paye. C'est lui qui les paye.
Ça, c'est le miroir de la France qui réfléchit. J'ai dit pourquoi. Parce que c'est très intéressant. Au moment où on dit pas de frontières, etc., les mondialistes, hein, pas de frontières, tout ça. Mais Hamza rétablit les frontières. Hamza est un identitaire. Hamza est un nationaliste identitaire.
Il a eu un capitaliste.
Vous savez plus ce qu'il a dit? Il a dit ce matin, il dit qu'est-ce que tu veux devenir? Investisseur.
Eh oui.
Formidable, t'as compris.
Il est capitaliste,
c'est la comédie. Investisseur.
Non, mais c'est intéressant. Moi, je vous invite d'ailleurs aussi à regarder la sociologie des gens qui l'arrosent et qui l'arrosent pas. C'est assez drôle aussi, les personnes qui ne raquettent pas.
Qu'est-ce que vous voulez dire par ça?
C'est-à-dire que les personnes âgées, ils n'hésitent pas, mais dès qu'effectivement, et Sardoche a raison, dès qu'il y a quelqu'un qui sent qu'il ne va pas payer, il l'arrose absolument pas, parce qu'il sait qu'il va s'en prendre.
Dans le canal, ouais.
Rapport de force.
Moi, je me demande, est-ce qu'il en prend vraiment une? Est-ce qu'il en a déjà pris une vraiment vénère?
Alors, Hamza n'est pas tout seul déjà.
Oui, bah oui, c'est ça aussi.
Il y a les autres autour.
Les autres ont 15, 16, voire 20 ans.
Et ils sont très nombreux, donc oui, il y a aussi ça.
Mais moi, je trouve ça scandaleux que les parents ne disent rien. C'est quand même fou que, enfin, je sais pas, moi, ma maman, elle m'aurait mis une tarte, elle m'aurait dit, tu rentres à la maison.
Parce qu'il y a pas de honte aussi. C'est quoi comme quel mécanisme pourrait faire que les parents feraient quelque chose? Des sanctions judiciaires, il y en a pas. De la honte, ils en ont pas.
Ah bah les des parents éduqués devraient le faire.
Ouais, non, mais je veux dire, dans leur logiciel à eux, ils ont pas de sanctions judiciaires, ils auront jamais rien, ils le savent pertinemment, ils auront jamais honte parce que selon leurs valeurs, ça les fait marrer que leur fils fasse ça et même ils sont fiers d'eux parce que il est connu et il gagne de l'argent. Donc en fait, selon leur logiciel, ils ont pas d'honte à avoir, ils ont pas de sanctions judiciaires, ils ont aucune raison de le remettre à leur place.
Mais surtout qu'effectivement, vous avez parlé d'un point qui est assez intéressant, c'est le fait qu'on en parle de cette manière-là, c'est-à-dire que les réseaux sociaux montent en épingle des histoires inutiles, alors qu'en réalité, on aurait pu lui mettre une tarte, il rentre chez lui et c'est fini, l'histoire est classée.
Sauf que les médias mainstream suivent et le mettent au pinacle. Je vous dis, ce matin, BFM TV, c'est extraordinaire. Et à grand moment.
Après, il y en a beaucoup qui en parlent parce que c'est assez aussi représentatif d'un phénomène de société et de l'impunité juridique qu'il y a en France. C'est-à-dire que parce qu'il a 14 ans, on sait très bien qu'il ne va pas aller en prison. Parce qu'il a 12 ou 14 ans,
12 ans,
on sait très bien qu'il n'y a aucune sanction, aucune suite. Et en fait, encore une fois, moi j'en appelle à la responsabilité des parents. Je suis désolé, son papa qui dit je suis fier de mon fils, pour moi c'est vraiment inadmissible. Quoi.
Tiens, en parlant de papa qui n'est pas fier de sa fille ou de son fils, André, je voudrais qu'on parle avec vous d'une affaire emblématique de ce qu'est devenu la censure culturelle en Europe, le film Citizen Vigilante, sorti sur Internet le 19 juin 2020. Il cumule déjà des dizaines de millions de vues. Il raconte l'histoire d'un ancien militaire américain devenu justicier en Europe qui traque les violeurs, les agresseurs que la justice n'a pas su punir. Un film interdit en Allemagne et c'est là que ça devient intéressant. C'est Elon Musk lui-même qui l'a sauvé de l'oubli en le diffusant gratuitement sur X. Une nouvelle preuve pour beaucoup que sans lui et sans X, certaines œuvres n'auraient tout simplement plus le droit d'exister. André, est-ce qu'on peut dire que la censure allemande a sans vouloir transformé ce film en événement mondial?
Ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton. Et ceux qui jouent, évidemment. C'est-à-dire qu'à partir du moment, mais c'est très intéressant cette histoire de Vigilant Citizen. Moi, je l'ai vu le film. C'est, si vous voulez, c'est ce qu'avait fait, mais dans une autre idée, le film de Charles Bronson il y a 30 ans et le Taken avec.
Liam Neeson.
Oui, voilà, exactement. Mais là, il le fait, c'est très intéressant. Moi, j'ai vu, je vais vous dire, en 48 heures, c'est très intéressant. J'ai vu la bataille de De Gaulle, les deux parties qui sont tout à fait passionnantes d'ailleurs, vraiment. Conseil à vos auditeurs de regarder parce que il y a beaucoup de choses intéressantes. Ça, c'est 40-44 et sans comparer du tout, 2026, c'est Citizen Vigilante. Pourquoi? Parce qu'au fond, il fait le non-dit. C'est-à-dire, votre fille se fait violer,
La famille est contente. Le juge, il dit, il n'y a pas de problème. Les victimes sont des deux côtés. Hein. Le violeur est aussi victime, sinon plus, que la violée, etc., etc., etc. Il monte ça. Et le type, il a ses revolvers, ses trucs, et il va effectivement régler les comptes. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait un non-dit extraordinaire. Ça veut dire que quelque part, tous les gens qui rêvent, et on peut comprendre à tort ou à raison de légitime défense, se disent, ah là là, moi je peux pas le dire, ça si je le dis, je passerai pour un espèce de salaud de fasciste. Mais eux, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, moi, si vous voulez, si ma fille, mon fils, etc., ils vous le disent tous, eh bien moi j'irai en prison, je ne laisserai pas faire. Sauf que personne ne fait. Et que là, le type exécute, évidemment, en fiction, ce qui se passe. Et donc ce film a fait 10 millions de vues. Et 85% des gens disent c'est très intéressant. Et la totalité de la critique, salaud de film fasciste, nazi, raciste, etc., etc.
Dire la vérité, c'est être fasciste?
Vous savez, si vous êtes absolument aujourd'hui, si vous considérez qu'un homme ne peut pas tomber enceinte, vous êtes d'extrême droite. Et quand je dis d'extrême droite, je suis poli. C'est ça. L'islamisme et le wokisme.
Eliott, vous voulez
dire? Ce qui est fou, c'est ce que disait M. Berkoff, c'est qu'on a vraiment ce sentiment d'entendre beaucoup de gens, surtout dernièrement, parce qu'on a vu avec l'affaire Liana, des gens qui disaient « Mais moi, il arrive ça à mon enfant, je ne sais pas ce que je fais, je pense que je finis en tôle. Je règle mes comptes. » Et en fait,
Tout le monde l'a dit.
Mais c'était la même chose pour l'affaire Lola, c'était la même chose pour plein d'affaires. Et on l'entend depuis 3, 4, 5 ans. Et c'est en boucle. Et ce film arrive, donc moi je ne l'ai pas vu parce que j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, mais en fait, si on regarde ça et qu'on le prend au pied de la lettre, c'est on décide de légitimer tout ce que la police ne peut pas faire, tout ce que les gens ont dans leur tête quand il leur arrive des drames ou qu'un membre de la famille très proche a un drame et qu'on se dit, mais comment on peut laisser cette impunité? Je vais me faire justice moi-même. Et en fait, c'est ça ce problème de justice moi-même qui me repousse un peu. Et on se rend compte que c'est ça le problème de... Ce film, il résout le problème de...
Il le pose. En fait, il faut juste se poser la question. L'État, il nous est redevable. Il est responsable de nos impôts vis-à-vis de plusieurs domaines. La justice, la santé, en l'occurrence
en France. Protéger les citoyens.
Respecter donc les frontières, la souveraineté. S'il échoue dans un des domaines, en l'occurrence la justice, et je pense que la France, on peut dire qu'il y a un sacré échec de la justice.
Bon, pas que la justice, on peut étaler beaucoup de choses.
Hein. Un sacré nombre d'années, quand on entend les policiers dire « j'ai arrêté cette personne déjà 10 fois dans l'année » et à chaque fois il est relâché alors qu'on ne sait pas comment c'est possible qu'il ait aucune sanction, les policiers n'en peuvent plus parce que c'est eux qui font le mieux leur travail et qui sont les plus impuissants. Donc la question de comment compenser ce manque cruel de justice, parce que pour la santé, il y a des hôpitaux privés, en réalité. Mmh. Quand les gens ont de l'argent, bon, ça crée des inégalités, mais c'est factuel. Pour les retraites, bon, il y a des gens qui investissent et qui arrivent, malgré le fait que peut-être qu'on n'aura pas de retraite, à avoir un fonds, Mais pour la justice, c'est le seul domaine où réellement, peu importe la personne, on est égaux face à la justice. Et si la justice, elle est incompétente et impuissante, la seule chose qui nous reste, c'est le tribunal populaire. Ou c'est se faire justice soi-même. Et là, je vais parler d'un autre sujet, si vous avez entendu parler. Moi, c'est intéressant parce que dans mon monde, celui des réseaux sociaux et de Twitch, on a des streamers qui régulièrement se font accuser de viol, d'avoir fait des violences conjugales, parce qu'on a des streameuses qui sont victimes de ces streamers et qui portent plainte. Et 4 ans plus tard, il n'y a rien. Et avoir leur agresseur en Prime TV, faisant des dizaines de millions de vues sur YouTube... Elles deviennent malades parce qu'elles se disent, en fait, le gars, il va continuer d'avoir de la popularité, il va continuer d'être vu. J'ai porté plainte il y a 3 ans, j'ai fait 6 mois de traumatologie parce qu'en fait, j'ai pas réussi à m'en remettre et j'ai absolument aucun gain de cause. Alors bon, c'est un peu compliqué le discours du viol parce qu'il y a toujours des problèmes de preuves, etc. Mais malgré tout, on sent un certain laisser-aller de la justice. Et du coup, ces gens finissent par faire des threads Twitter pour dire « voilà ce qui m'a fait ». Je balance ma vie privée, des fois c'est très dur de le faire parce que ces personnes-là doivent parler de leur vie privée, des fois c'est une certaine honte pour elles. Et elles sont obligées de le balancer sous le train, et ces personnes finissent par être cancel. Et malheureusement, à cause de ça, il y a certaines personnes qui finissent par être cancel sans preuve, qui ne sont pas forcément responsables de ces violences. Et donc, ça crée cette double justice des réseaux sociaux, du tribunal populaire.
Moi, je vais vous dire, ce qui me dérange, c'est la censure. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un stade, quand même, aujourd'hui... ce film-là, en l'occurrence, n'a pas promu les idées d'Hitler. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut arrêter de déconner. C'est-à-dire qu'on ferme des chaînes, on interdit des films. C'est quand même de la folie, Armand.
Moi, je partage parfaitement l'avis d'André de tout à l'heure.
Vous avez été payé par André avant de venir, je crois. N'hésitez pas à avoir votre propre avis, Armand.
Ce film.
Quand il entend la raison, il a
j'ai toujours été raisonnable. Non, mais ce film remet en question effectivement la violence physique légitime. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, comme vous le disiez tout à l'heure, on s'est toujours dit que l'État serait là pour nous protéger. En Occident, j'entends. Et c'est vrai qu'on a un petit peu délaissé cette responsabilité en se disant l'État sera toujours là pour nous. Et je me fais l'avocat du diable, mais je pense qu'il y a une peur à travers ce film d'une certaine partie de la population qui se dit oui, mais en fait, ça va pousser les gens à agir d'eux-mêmes. Je pense que c'est ça la principale frayeur. À l'insurrection, à la justice soi-même, parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de victimes. Bah, qui tout simplement ne croit plus du tout à la justice. Effectivement, quand vous êtes la mère de la petite Liena, quand vous êtes la maman de Lola ou autre, la justice...
Elias et autres.
La justice, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est, la justice? Vous avez perdu un enfant, vous avez perdu un être cher. Vous n'allez pas le récupérer, vous n'êtes absolument pas dédommagé. Parfois, le coupable n'est presque pas puni. C'est ridicule les peines qu'ils se prennent. Effectivement, il y a un sentiment d'injustice qui commence à naître. Ou parfois, certains citoyens, et je peux l'entendre, se disent, mais en fait, la justice, je suis mieux en capacité de faire justice que la justice de mon pays.
André.
Oui, je voudrais juste deux choses. Le metteur en scène de Citizen du film a dit, vous savez, si j'avais mis 5 nazis en train de violer une fille, j'aurais été à la Berlinale aux Ours d'Or. Évident. S'il avait mis 5 néo-nazis en train de... Parce que vous avez vu, parce que je veux dire une chose, parce que quand vous dites attention, ça risque d'enlever. Mais regardez tous les films qui disent exactement le contraire. Fabuleux, tout va bien, l'immigration, une chance pour la France. Mmh. On n'a que ça comme film. Regardez tous les films français, à 9 films français sur 10, c'est tout va bien dans le meilleur des mondes, oui, on vit ensemble et tout va bien, etc. Sauf qu'à un moment donné, c'est la même propagande de l'autre côté. Donc ce film, en quoi il dérange? Je ne dis pas évidemment qu'il faut suivre, je ne dis pas qu'il faut se faire justice soi-même. C'est pas la question. Mais voilà, il dit, attendez, il y a un problème, à un moment donné, on n'en peut plus, on dit qu'est-ce qu'on fait. Et c'est pour ça que les gens ressentent, et ce n'est pas, évidemment ils ne vont pas le dire comme ça, le sentiment, mais attendez, moi, voilà, je sens quelque chose, si on atteint mon frère, ma sœur, ma fille, etc., je ne peux pas le supporter.
Non, mais c'est une œuvre avant tout, c'est-à-dire que sinon on n'aurait pas, on ne devrait pas laisser en libre accès Scarface, La Haine, il y a plein de films hyper violents qui peuvent inciter à la haine aussi.
Il y a une critique très forte de l'idéologie socialiste dans le film, dans le sens où on dirait presque une caricature. À des moments, on pourrait se dire c'est quand même sacrément drôle qu'il fasse ça dans le film, mais en réalité, c'est des discours qu'on peut vraiment entendre. C'est ce discours de vouloir protéger les agresseurs, de dire oui, mais en fait, c'est pas leur faute, c'est parce qu'ils sont nés dans la précarité.
Le juge.
Ouais, le juge dans le film, carrément, il va aller dans le sens de dire ok, il vient de violer, tuer, torturer, séquestrer, mais c'est ok, parce qu'en fait, c'est pas vraiment sa faute, il est né dans un mauvais. En fait, il y a cette folie maladive de la gauche de vouloir tout expliquer par la sociologie, qui se retrouve caricaturée dans le film, alors qu'en fait, c'est vraiment un discours qu'on entend au quotidien. Et je pense que pour les gens qui défendent au quotidien ce faux discours, parce qu'ils se disent que c'est ce qui va permettre de calmer le peuple, de réduire le racisme, de permettre d'éviter une insurrection, d'éviter une guerre civile.
C'est le contraire.
Alors qu'en fait, c'est un effet stressant, c'est complètement l'inverse qui est en train de se faire. Après moi j'avais fait une vidéo avec Maudin sur l'antiracisme par rapport à l'affaire de Henri Novak, pour ceux qui avaient suivi, et c'était tout le fond du discours, c'était l'antiracisme. Est-ce qu'il évite finalement le racisme, ou il l'amplifie avec des rebonds?
Pardon, ça va plus loin. Vous savez les grooming gangs à Londres, vous connaissez tous
l'affaire des grooming gangs
pendant 30 ans quand même, 100 000 ou plus que 100 000 jeunes filles, 200 qui ont été tabassés, esclavagisés, torturés, mis en esclavage sexuel et prostitués par des gangs de Pakistanais et de Bangladeshis. Bien. Pendant 30 ans, tout le monde savait. La police savait quand elle ne participait pas. Les sociaux, les gens qui s'occupent d'aide sociale le savaient. Les municipalités le savaient. Et ils ont dit, mais pourquoi? Ah oui, mais si on dit ça, on va passer pour raciste. Si on dit ça, on va passer pour raciste. C'est-à-dire, mais moi, un salaud de tous les mots, qu'il soit blanc, noir, français, arabe ou tout compagnie, si c'est une ordure, c'est une ordure. Peu importe son ethnie, sa couleur de peau et tout ça. Non. Ah non. Ça, c'est pas comme ça que ça marche. Quand c'est fréquemment les racisés, on ne dit plus rien. À un moment donné, il faut savoir de quoi on parle.
Armand, vous allez dire que André Bercoff a raison et que vous le rejoignez.
Eh ben, il a raison et je le rejoins. Non, mais c'est surtout ce climat de tension, effectivement, je pense qu'il les a poussés à la censure de ce film. C'est parce qu'il se dit que ça va influencer des gens à commettre soi-même la justice. Mais vous l'avez très bien rappelé, Baya, ça reste qu'un film, ça reste du divertissement. J'ai regardé Fast and Furious, c'est pas pour autant que je suis sorti en faisant des dérapages avec ma voiture. C'est un film, ça reste un film.
Non, mais après, évidemment que le film intervient dans un certain contexte.
Cependant, le fait de le censurer à mon avis, beaucoup plus contre-productif, parce qu'effectivement, ce film, de toute façon, sera vu. Là, c'est par l'intervention d'Elon Musk, mais même sans Elon Musk, il aurait été vu. Et là, il aurait, à l'inverse, il aurait pu influencer des opinions, parce qu'on se serait dit, il y a un complot, il y a un truc pour le supprimer, machin. Vaut mieux le laisser tel quel, le diffuser, les gens sont suffisamment intelligents.
Après, le film, il y a aussi un autre problème, c'est que l'acteur principal, lui aussi, est problématique. C'est-à-dire qu'il a, depuis 10 ans, des accusations de cannibalisme aux États-Unis. Donc, même dans le choix du casting, il y a une problématique, c'est ça qui est fou.
C'est pas prouvé.
C'est pas prouvé, mais ça lui a quand même détruit sa carrière. Donc, il a été détruit.
C'est quoi vos infos là
Mais malheureusement, je suis les tabloïds américains.
Moi, je suis la justice américaine.
Non, vous suivez surtout André Mercoff.
Vous écoutez toujours Radio Courtoisie, on ne va pas se mentir, on ne le dit pas souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux de la chaîne. On est reparti pour une heure d'émission, restez avec nous, on va passer aux 7 minutes d'Eliott avec André Berkoff, c'est à vous.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention, 1,5 million d'auditeurs par semaine, des milliers d'écoutes en ligne, de 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
On ne va pas se mentir, avec Baya Carla et sa bande, tous les samedis de 15h30 à 17h sur Radio Courtoisie.
On ne va pas se mentir, merci chers auditeurs d'être de plus en plus nombreux. Eliott, c'est à vous.
André Berkoff, vous êtes notre invité aujourd'hui. Vous êtes journaliste, écrivain, animateur radio avec une voix singulière du paysage médiatique français depuis plusieurs décennies. Habitué des débats, souvent à contre-courant, vous êtes autant salué pour votre liberté de ton et de critique que pour certaines prises de position. Vous revendiquez avant tout le droit de poser des questions et de remettre en cause ce discours. Pourquoi ?
Ben pourquoi ? Parce que si vous voulez, autant je me méfie totalement des gens qui ont réponse à tout, autant je considère que l'alpha et l'oméga du journalisme, c'est d'avoir question à tout. Sinon, ça sert à quoi ? C'est-à-dire que le problème, c'est d'aller creuser, d'aller voir, d'aller consulter. Et juste un petit exemple qui n'est pas si ancien, quand au début du Covid, je me rappelle très bien, j'animais à Sud Radio une émission quotidienne. Et je me rappelle très bien que la première fois que j'ai invité Raoult et que j'ai invité Perron, j'ai passé pour un espèce de complotiste terrible. Je dis, mais attendez, moi je ne suis pas microbiologiste, je ne suis pas médecin. Est-ce que M. Raoult, qui a fait 400 publications à travers le monde, j'ai regardé, est-ce qu'il ne mérite pas d'être entendu ? C'est tout. Je ne dis pas qu'il a raison ou tort, je ne suis pas capable, je n'ai pas la compétence de répondre. Eh bien, qu'est-ce qu'il me disait ? Il me disait, oui, mais c'est tout le problème du narratif dont vous parliez au début de l'émission. C'est qu'il faut invisibiliser. On ment par omission. On ne va pas vous embêter. On ne va pas envoyer la Gestapo à 6h du matin. On ne va pas vous entendre. C'est tout. Alors vous, lui, attention, il a telle étiquette, il ne faut pas l'entendre. C'est ça. Et la seule réponse, c'est de dire tout le monde a droit à la parole. Et si vous trouvez qu'il dit des conneries, eh bien répétez, démentez-le, etc. Sinon, ça sert à quoi ?
Est-ce que c'est compliqué d'être journaliste aujourd'hui ?
Je ne crois pas. Je crois que vous savez, le problème du journaliste, ça a toujours existé. Vous savez, c'est Albert Londres qui disait c'est la plume dans la plaie. C'est-à-dire, vous êtes journaliste pourquoi ? Vous êtes journaliste parce que vous cherchez à regarder. Et je suis très frappé par une chose, c'est que l'enquête, qui était vraiment l'arme absolue du journalisme, existe de moins en moins, faute de moyens, faute de ceci, faute de cela. Je crois que c'est ce qui est plus difficile aujourd'hui, c'est vrai, c'est la concentration. La concentration financière. 7 milliardaires qui possèdent absolument la totalité des émissions de télévision, de radio, etc. C'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est important, mais laissons les réseaux sociaux de côté. Et vous avez un problème, et vous avez quoi ? Vous avez le service public, qui est à la solde du gouvernement, quel qu'il soit, de gauche ou de droite. Et vous avez un vrai problème, et je dis toujours, c'est une caricature, mais je fais ça, je dis, vous savez, comment vous reconnaître un journaliste qui va loin, d'un journaliste qui ne va pas loin, c'est très simple. Vous regardez la télévision, vous regardez son cou. Regardez bien son cou. S'il y a des rougeurs, c'est qu'il vient d'enlever le collier avant de passer à la télé. Voilà. Non. Mais sérieusement, il y a un problème. C'est vrai que d'être journaliste aujourd'hui, c'est pas facile si on n'a pas envie de s'auto-censurer, de faire attention, d'aller avec le sens du vent. Et puis, comme dit quelqu'un, faut bouffer. Mais je rappellerai à ce quelqu'un C'est le secrétaire de Sartre qui disait « J'ai travaillé 3 semaines pour France Dimanche, il faut bien vivre, mais au bout de 3 semaines, je n'en voyais plus la nécessité.
» Vous avez travaillé du coup sur France Inter. Est-ce que c'est compliqué de devoir se censurer ?
Non, alors d'abord, je n'ai jamais travaillé sur France Inter. J'étais invité à France Inter, donc je n'étais pas censuré, j'étais comme invité. Non, j'ai travaillé dans beaucoup de journaux comme L'Express et compagnie, et j'ai travaillé à LCI, j'étais sur France 3, par exemple, il y a quelques années. Et je vais vous dire, c'est ça qui est frappant, je peux vous dire, France 3, j'avais une émission qui passait dans l'après-midi, donc pas à minuit, pas à des heures impossibles, etc. J'ai traité du sadomasochisme, j'ai traité de la pédophilie. Je n'ai pas eu un seul procès. J'ai fait 500 émissions en 4 ans. Je n'ai pas eu un seul procès. Pour vous dire, aujourd'hui, je ne pourrais pas faire la moitié du quart du cinquième de ce que j'avais pu faire dans les années 90. C'est clair.
Donc aujourd'hui, le problème, c'est la censure.
La censure et l'autocensure, mais surtout la censure, qui est devenue extrêmement, comme vous le savez, à signe faible. À signe faible, hein. On vous met pas en prison, on vous met... Mais les amendes, mais ceci, mais cela, attention, ne dites pas ça, ne dites pas ci, et on vous transmet, faites attention, tu marches en terrain miné, donc tu fais très très gaffe. Et c'est un problème.
Et vous êtes déjà auto-censuré ?
Écoutez, j'espère que pas, peut-être inconsciemment, j'espère que je ne l'ai pas fait consciemment, mais il a dû m'arriver que dans certaines, on m'a dit, attention, tu ne parles pas de ça, j'ai dû aussi céder à ça quelquefois, ce que je regrette, mais... Ça m'a sûrement arrivé. L'autocensure, c'est quelque chose où vous êtes dans la norme. Les gens vous disent, mais écoutez, ça se passe comme ça, vous allez essayer de voir. Vous dites, attention, tu peux toucher à tout, sauf à ça. Vous savez, c'était Christine Kelly qui a raconté pour CNews. C'est très intéressant parce qu'elle l'a dit avec beaucoup de franchise. Elle a dit, oui, on pouvait parler de tout à CNews, sauf des vaccins. C'est pas question de parler des vaccins. C'est-à-dire, nous, on dit CNews, liberté d'expression, mais vous voyez, partout, il y a à un moment donné les tabous. Et je crois que les tabous, c'est ça que... Je crois que Musk a compris, mais tous les libertaires ont compris ça. C'est que la liberté d'expression, elle est fondamentale. Pourquoi ? C'est pas pour jouer à liberté, liberté. C'est parce que quand vous censurez quelque chose et que cette chose, vous savez, à un moment donné, la réalité enfonce la porte. Vous dites, ah oui, mais ça se passe comme ça. Et pourquoi on me l'a pas dit ? Regardez sur le Covid, regardez sur le climat, regardez sur la guerre, etc., etc. Mais attendez, je vois des trucs, c'est le réel. Réel, c'est 2 plus 2 égale 4, c'est une femme est une femme, un homme est un homme. Oui, non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de biologie, il n'y a pas de tout ça, c'est fini. Je peux être un fourmilier à main noire, et si je veux être fourmilier à main noire, si vous ne reconnaissez pas que je suis un fourmilier à main noire, vous êtes bigot, réactionnaire et compagnie. Non, il y a le réel. Et simplement, on impose partout un narratif sur le réel. Et comme je suis le camp du bien, j'ai mon narratif, donc si vous êtes quelqu'un de bien, vous écoutez mon narratif et pas la réalité. C'est ça l'équation.
C'est quoi l'avenir des médias français, que ce soit radio ou télé ?
Moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Je pense que, encore une fois, ce qu'ont ouvert les réseaux sociaux, avec le meilleur et le pire, bien sûr, il y a tout, hein. Il y a la boue et les étoiles. Mais ce que ça a ouvert, c'est justement cette formidable multiplicité, et j'espère qu'elle va rester. Que ça ne devienne pas des bureaucraties, des petites... Parce qu'attention, il y a toujours le danger de devenir des bureaucraties, même minime. Mais je crois que ça a ouvert un truc formidable. Et encore une fois, on parle toujours d'Elon Musk et de X, mais ce qui est très intéressant, c'est comment vous ouvrez la boîte de Pandore. Lui, parce qu'il avait 44 milliards de mètres, il a acheté Twitter à 44 milliards, et il a ouvert la boîte de Pandore. Mais en beaucoup plus petit, vous pouvez faire beaucoup de chemin. Et en France, pour ne parler que de ça, les clairières de liberté sont extrêmement importantes. Après, on peut déconner. Et alors ? On déconne. C'est pas... On peut déconner et on a au moins tous les avis et que chacun choisisse ce qu'il a envie d'écouter.
Vous aimez encore être journaliste ?
Oui.
C'est quelque chose qui vous passionne et...
Je veux dire, je suis plus écrivain que journaliste. Je suis plus aujourd'hui animateur ou commentateur ou éditorialiste que journaliste. Mais je trouve que c'est franchement, ce sera demain et après-demain un des plus beaux métiers du monde. Parce que quand vous allez dans une affaire, quand vous l'éclaircissez, quand vous voyez ce qui se passe vraiment, vous avez, je suis sûr, la même sensation que quand Émile Zola a enquêté sur l'affaire Dreyfus et a trouvé que c'était une arnaque formidable. Comme on l'a vu pour les Pfizer. Comprenez, aujourd'hui, attendez, il y a 3 mois, on a eu l'intégralité des contrats entre Pfizer et l'Union européenne. 70 milliards de dollars. C'était interdit pendant 4 ans et demi de savoir les contrats qui n'étaient pas biffés. Eh ben, moi, je les ai lus. Enfin, moi, comme beaucoup d'autres, il y a 3 mois. Avant, c'était impossible. Eh ben, qu'est-ce qu'il y avait dans ces contrats ? Chose, voilà, c'est très simple. Ils étaient dans ces contrats. Attendez, c'est hallucinant. On est en 2026, soi-disant, les pays avancés. Et vous disiez, on n'est absolument pas sûr, à 2 ans d'intervalle, les effets des vaccins. Comment tu signes un contrat, tu achètes un appartement, tu achètes une voiture. Oui, mais le moteur, on ne sait pas si ça va durer encore un an et demi. Oh, on est où là? Vraiment, c'était écrit noir sur blanc. Parce que les avocats de Pfizer avaient bien fait les choses. Et les gouvernements avaient signé en pleine complicité, alors que c'était écrit noir sur blanc. Eux le savaient, nous on ne le savait pas. Voilà ce que c'est que le journalisme quand il sort.
C'est quoi votre conseil pour un jeune journaliste qui veut se lancer?
D'abord de lire, de s'éduquer, de se cultiver. Très important d'avoir des racines. Vraiment, c'est fondamental. Parce que comme ça, il peut exercer son esprit critique quand on lui assène quelque chose. Et deuxièmement, de travailler. Et troisièmement, alors là, c'est plus difficile de trouver un journal ou un média qui lui permette de s'exercer dans pleine liberté. Et je veux dire qu'aujourd'hui, de l'inventer. Parce qu'aujourd'hui, je crois que l'heure est à la création et à l'invention.
Merci André Lacoste.
Moi, j'avais une question pour vous. Si vous étiez l'homme d'un seul livre, vous choisiriez lequel?
D'un seul livre de mes livres ou en général?
En général, sans choisir vos livres.
D'un seul livre?
Oui, vous êtes l'homme d'un livre.
L'homme d'un livre. Écoutez, si je prenais pour Dieu...
Martine à la plage.
Non, d'un seul livre. Ah, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de livres qui sont des livres extrêmement importants pour moi. Je dirais Les Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand.
Oh, formidable! Ouais. Atala. C'est le nom de ma société de production.
C'est vrai?
Oui. Ah, moi, je suis une grande fan de Chateaubriand.
Ah ouais, magnifique.
Et c'est amusant parce que c'est souvent un choix féminin, parce que c'est très décrit, c'est très romantique.
Ben, c'est ma part féminine.
Oh, on parle pas du steak.
Comment?
On parle pas du steak Chateaubriand?
Waouh!
Oh, les références!
Elle est bien. Ça me rappelle, vous savez qu'un jour, c'est vrai, on discutait anthropologie et je citais Lévi-Strauss et il disait: ah oui, le jeans! Oui, bah oui.
Alors, moi, vous avez une question pour André?
Bah non, il est d'accord avec tout.
J'ai une question, André, je suis d'accord. Non, mais moi, j'aimerais savoir, parce que vous avez quand même traversé plusieurs âges. Vous êtes à la télé depuis tout ce temps. C'est quoi le secret de votre longévité, du coup?
Et je ne sais pas, je crois que la curiosité d'abord. Ça, vraiment, tout m'intéresse, aujourd'hui encore comme hier, comme j'espère, enfin, le temps que je pourrai, les moyens que je pourrai. Mais je suis intéressé. Je sais pourquoi j'ai choisi ce journalisme, parce que mes parents étaient évidemment contre. À 14 ans, je voulais faire que ça. Je rêvais de ça. Mes parents disaient, mais attends, c'est connerie, il faut que tu sois avocat, médecin, ingénieur, enfin, un métier sérieux, quoi, pas des métiers comme ça. Et en fait, il y avait 3 choses qui m'intéressaient. C'était l'écriture, évidemment, j'aimais beaucoup écrire. Rencontrer les gens et aller voir des pays. C'était ça. Et je me dis, le seul métier qui peut me le donner, c'est le journalisme. Et je suis heureux de rencontrer des personnes, quelles qu'elles soient, comme rencontrer des pays. C'est aussi fabuleux et ça reste fabuleux. Chaque fois que vous découvrez ça, voilà.
Sardoche, est-ce que vous avez une question pour André?
Non, j'avais pas vraiment de question, juste...
Je suis d'accord avec
lui. Je voulais réagir à plusieurs moments, mais j'ai pas osé l'interrompre, mais... Ouais, à un moment donné, on parlait de s'auto-censurer et on parlait de ne pas suivre le courant et j'avais l'impression... Ah, je sais plus exactement ce que je veux dire, je suis désolé.
Non, mais... Pas de soucis.
Non, mais oui, c'était... Non,
la pression à l'autocensure. La pression à l'autocensure.
Ouais, en fait, même le fait que des fois, ce soit pas vraiment de la censure, ce soit juste... Enfin,
vous avez l'impression que parfois vous auto-censurez, pardon, sur le réseau?
Je pense que ouais, c'est ça, je retrouve ce que je disais, excusez-moi, c'était il y a longtemps. En gros, j'ai l'impression que des fois, les sujets sont pas particuliers, c'est pas les avis qui sont problématiques, c'est plutôt les sujets. En fait, il avait tendance à dire qu'il y avait des choses dont on ne pouvait pas parler, et on a l'impression parfois qu'on n'a pas envie de dire ce qui ne plaît pas à un courant, mais en fait, j'ai la nette impression que parfois, juste, les éditorialistes, les journalistes, les médias, n'ont juste pas envie de mettre les pieds dans des sujets sans même avoir particulièrement d'idéologie vis-à-vis de ces sujets, c'est juste des sujets qui font peur. Et il parlait d'aborder la pédophilie, d'aborder... En fait, on peut très bien avoir une analyse sur ça, essayer de comprendre qu'est-ce qui sont les mécaniques des maux de notre société, et on n'a même plus l'opportunité de le faire parce que, je pense qu'encore une fois, c'est une question d'argent. Les gens qui mettent de l'argent sur ces émissions n'ont pas envie d'être associés à des sujets un petit peu laborieux, un petit peu... des bourbiers, quoi. Et je sais pas ce qu'il en pense.
Mais je voudrais vous dire, c'est vraiment pas une question d'argent, je vais vous donner 3 exemples. Vraiment. Par exemple, un journaliste, n'importe quel journaliste, pouvait faire un truc. prendre des journaux, prendre les 50 journaux régionaux de France et de Navarre. Hein. Regarder les faits divers. Et dire qu'est-ce qu'il y a eu pendant une journée. Qui a fait ça? Laurent Berton dans la France Orange Mécanique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un travail que n'importe quel journaliste aurait pu faire. C'est il a pris deux jours d'une année, il a regardé les 50 journaux régionaux, et il a regardé ce qui se passe. Et Jean, après, ah bon? Regardez le type qui a fait les fossoyeurs sur les EHPAD. Il est allé dans les EHPAD, ça coûte pas non plus des milliards, il est allé enquêter dans les EHPAD, et il a fait la course de l'oncle Tom des EHPAD. Et Jean s'est dit, ah oui, ça se passe comme ça. Vous savez, et je vous donne un troisième, alors c'est vraiment pour vous montrer à quel point c'est une question de volonté humaine. Un des bouquins les plus importants des 50 dernières années, c'était en Allemagne. C'était un type qui voulait voir la condition des travailleurs immigrés en Allemagne. C'est un Allemand, lui. Il s'est mis à la Brudenois, il a mis des lentilles, il s'est fait passer pour un Turc, et il a fait tête de Turc. Il a pendant un an, il a vécu, mais vraiment dans les dortoirs, des ouvriers turcs d'Allemagne. Et il a sorti un bouquin qui s'appelait Tête de Turc, il a fait 1 million d'exemplaires. C'est pas seulement pour le succès, je vous dis ça, parce qu'il a montré une situation. Donc quand on me dit il faut beaucoup d'argent, non, non. Il faut vraiment une volonté de se dire on va y aller. Et la pédophilie, c'est la même chose. Pourquoi le périscolaire? C'est quand même hallucinant.
Ah, c'est frôle,
quand on soit là. C'est hallucinant.
Attention, on peut être attaqué par la mairie de Paris. Hein.
Mollo, bah, mollo.
Non, pourquoi? Non, non, bien sûr, mais prendre un enfant par la main.
On ne va pas se mentir, ces dernières semaines, la France a vécu l'un des épisodes les plus violents de son histoire climatique récente.
Toujours plus.
Deux vagues de chaleur, des records historiques battus, des morts par centaines et une classe politique qui s'est déchirée en pleine Assemblée nationale sur qui est responsable de quoi. On fait le point sur tout ce qu'il s'est passé et je vous préviens tout de suite, à la fin, j'ai un coup de gueule à pousser. Ah. Une double canicule inédite, une première vague de chaleur précoce et historique a touché la France dès le 21 mai, du jamais vu pour un mois de mai, puis une seconde vague encore plus violente a débuté le 17 juin. Le 24 juin est devenue la journée la plus chaude jamais enregistrée à l'échelle nationale avec 43,8 degrés Celsius relevés à Saintes. Paris a dépassé les 40 degrés deux jours de suite, un seuil franchi seulement 5 fois depuis 1947. Un bilan humain lourd. Santé publique France recense environ 1000 décès supplémentaires depuis le 24 juin par rapport au mois précédent, avec une hausse de 40% des morts à domicile, particulièrement en Île-de-France. 85% des décès concernent les plus de 65 ans. Le bilan définitif ne sera connu que dans plusieurs mois. Et l'affrontement à l'Assemblée, la chef des députés écologistes Cyrielle Chatelain a évoqué un chiffre de 10 000 morts. Lié à la canicule, le Premier ministre Sébastien Lecornu est sorti de ses gonds, qualifiant ce bilan de scandaleux et de faux, accusant les écologistes de l'avoir répété sur les plateaux télé pendant plus de 3 jours. On écoute.
C'est la première fois que je sors de mes gonds parce que mon dernier argument est celui-ci. D'où sortez-vous ce bilan de 10 000 morts sur lesquels vous et les vôtres, votre collègue président Gontard au Sénat, madame la députée Rousseau, un certain nombre sont allés sur les plateaux de télévision depuis maintenant plus de 3 jours en établissant un bilan humain qui est faux. C'est scandaleux, c'est indigne. Un mort est un mort de trop. Mais de grâce, si votre formation politique, qui est un parti de gouvernement, ne fait pas confiance à Santé publique France, ne fait pas confiance à l'administration sanitaire du pays, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Donc de grâce, madame la présidente, un peu de dignité et de responsabilité.
Armand, vous voulez réagir?
Alors oui, moi j'avais vu cette intervention de Sébastien Lecornu qui est très drôle parce qu'il prévient qu'il va se fâcher, c'est-à-dire que vous voyez, c'est quand même « attention, je vais me fâcher » avant de se fâcher.
Il s'est porté un peu par les gens.
Après, très franchement, je ne sais pas quel est le bilan des morts, peut-être que les écologistes ont raison, peut-être qu'ils ont tort, j'ai pas envie de leur jeter l'opprobre, mais la vérité c'est qu'aujourd'hui, rien n'était prévu pour cette canicule qu'on attend maintenant depuis des années. On sait que le réchauffement climatique est un fait, on sait qu'il va faire chaud, de plus en plus chaud au fil des ans qui arrivent, on sait qu'il y a des périodes de canicule comme celle qui arrive, il y a eu celle de 2003, il y a eu celle de 2007, enfin voilà. On sait que c'est un épisode qui va se répéter et qui continue de se répéter dans le temps. Et effectivement, le gouvernement n'a absolument rien prévu. Moi, je vous rappelle juste cette journée de solidarité qu'on devait faire.
Ah bah voilà. Oui. Bah oui. Donc, on avait prévu.
Qui est devenu un jour férié de Pentecôte. Oui, ça fait 40. Bah maintenant, avec le temps, ça doit faire 50 millions.
60 milliards, il me semble. 69
milliards. Bon,
énorme,
en tout cas, énormément d'argent économisé. Où est-il?
Face à cette polémique et à la pression qui monte, Emmanuel Macron est monté au créneau à son tour. Alors qu'il était en sommet à Antibes avec la première ministre italienne Giorgia Meloni, le président a choisi de défendre le bilan de son gouvernement plutôt que de reconnaître un quelconque retard. On écoute.
Il y a un gros travail qui a été fait. Et je pense que l'honnêteté conduit à le regarder, à la fois de montants investis et de vraies transformations, et qui ont changé beaucoup de choses. Ça fait maintenant plusieurs années que nous avons accompagné une transition de nos habitats, de nos bâtiments publics, de nos infrastructures publiques qui correspond à l'adaptation. Néanmoins, nous n'avons pas fini ce travail. Il faut avoir cette humilité. Nous vivons, et il faut avoir l'humilité de le regarder, une période totalement inédite. Nous nous sommes adaptés au réchauffement climatique. Mais on ne s'adapte pas à un pic qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui en Europe et qui n'a jamais eu d'équivalent dans notre histoire, c'est-à-dire un pic caniculaire qui dure aussi longtemps et qui est à 15 degrés au-dessus des normales saisonnières.
Moi, ça me fait rire, ça me fait penser à moi quand je devais me justifier auprès de mes parents quand j'avais des mauvaises notes. On a fait un gros travail. On a encore beaucoup de choses à construire, Elliot.
Non, mais moi, là, j'ai une question pour cet homme, c'est...
C'est le président de la République.
Oui, enfin, non, parce que justement, parce que j'ai l'impression qu'il découvre un bilan à chaque fois, c'est toujours, il vient et on a fait, enfin je crois qu'on a fait quelque chose et c'est pas encore fini. Mais tu pars dans moins d'un an, est-ce qu'on va voir la finalité un jour ?
Vous voulez réagir ?
Moi, ce débat de la climatisation, je le trouve absolument lunaire. Je suis allé dans plein de pays dans le monde, je pense que si vous avez voyagé, vous trouvez ça assez choquant. Toutes les habitations au Japon, en Corée du Sud, je suis allé plein de pays, même les États-Unis, ils ont l'air climatisé partout, c'est la moindre des choses. Et puis surtout, base. Aujourd'hui, on a des aires climatisations, des climatisations réversibles, c'est-à-dire qu'on peut avoir de l'air chaud qui rentre ou de l'air froid qui sort, enfin, on peut réchauffer l'hiver avec, c'est quelque chose d'assez rentable en plus, ça utilise de l'électricité, on est dans un pays à 96% d'énergie, fossile, c'est-à-dire que, en fait, c'est assez hallucinant parce qu'on a un discours des écologistes par rapport à la climatisation comme si c'était un danger, comme si on habitait en Allemagne et qu'on avait 55% ou 50% d'énergie fossile, alors qu'on est dans le pays le plus nucléaire du monde.
Mais surtout qu'on est responsable à 1%.
Non, mais c'est même pas le sujet parce qu'on
pourrait toujours dire. Oui, parce que...
En fait, il y a tout un amalgame qui est fait.
C'est le sujet parce qu'en fait, les écolos vont se plaindre des morts et après,
si tout le monde avait le discours de toute façon, on ne représente que 1% et qu'il y avait 100 pays, évidemment que ce ne serait pas un argument. Le fait est qu'actuellement, l'air climatisé, la climatisation demande de l'énergie électrique. Et l'énergie électrique, elle est générée par le nucléaire, qui est absolument plus un débat en termes d'efficacité. Et on a, en fait, je vais vous dire honnêtement, je pense que là, la souffrance des Français vis-à-vis de la chaleur devient un argument politique pour la gauche, parce qu'ils vont nous dire, vous avez vu, on vous avait dit pour le capitalisme, c'est la faute du capitalisme, c'est la faute de la croissance, nous on veut pas de croissance, on veut pas de capitalisme, on veut que tout le monde crève et n'ait pas d'amélioration de son confort. Et donc, petit à petit, si ce discours n'est plus valable parce qu'on aurait la climatisation, ces gens vont plus pouvoir mais vendre leur discours moralisateur et d'hospice funeste, en fait.
André, je vous vois vous agiter.
Non, je veux dire, mais de toute façon, mais je crois pas du tout que les gens marchent à ça, c'est fini.
Je pense que c'est fini.
Gauche, le discours est terminé, bien sûr. Et bien alors, je vais vous dire, moi, je suis très heureux parce qu'il faut toujours regarder la documentation. Vous savez qui sont les gens les plus, aujourd'hui, climatisés du monde? Les cochons chinois. Les fermes de cochons chinois sont climatisées. C'est-à-dire que les Français devraient rêver d'être des cochons chinois.
Non, absolument. On est juste des cochons
payeurs. Ils sont climatisés. Payeurs, en plus. Non, et en plus, c'est sûr, la climatisation. Mais là, vous avez raison. Mais la tartufferie, l'hypocrisie, tous ces gens-là sont tous climatisés.
Bien sûr.
Toutes les institutions, vous regardez, par les drones, on voit ça, ils sont tous climatisés.
Ah bah, je ne sais pas si vous avez vu Manon Aubry prendre son taxi, à mon avis, il était climatisé. Hein. C'était toute option. Hein.
Non, mais il y a quand même un vrai drame dans ça, c'est que ce discours idéologue de vouloir refuser la climatisation parce qu'elle ne correspond pas à cette idéologie, clairement, elle entraîne des énormes problèmes. Je ne sais pas si vous avez entendu, à Nantes, il y a un nouvel hôpital qui a été construit.
Avec des verres, entièrement fait de verre.
Ouais, mais alors pire que ça, c'est pour la gare, ça.
La gare, oui.
La gare, elle a été construite avec du verre, c'est littéralement un four. Les gens, ça monte à 40 et quelques degrés. Mais alors, pire que ça, il y a un hôpital dans la même veine qui est en train d'être construit. Et alors, pour 3% de plus de prix de budgétisation totale, ils auraient pu installer la climatisation dans tout le. Une meilleure gestion. Actuellement, il y a la clim que dans les blocs opératoires. Il y a aucune clim dans les chambres. C'est-à-dire que là, il va y avoir un nouvel hôpital qui va ouvrir à Nantes.
Dans les EHPAD, c'est dramatique.
Mais c'est les gens.
La journée de solidarité.
Les chambres climatisées par EHPAD, c'est la règle. Ouais. Si vous pouvez en ajouter plus, c'est très bien si vous êtes heureux. Sinon, une chambre climatisée.
Et parce que c'est une obligation légale.
Incroyable.
Je ne sais plus dans quelle ville.
André, on ne vous entend plus.
L'hôpital qui est dans une certaine ville. Vous savez ce qu'ils ont climatisé? Le local à poubelle.
Non.
C'est pour les odeurs, c'est pour les odeurs, mais je comprends.
On en rigole parce que c'est tellement fou quand même de se dire qu'on est quand même dans un pays civilisé, dans un pays évolué,
l'idéologie,
là où on prône le progrès technique et nous n'avons pas de clim et en
l'idéologie
hiver,
a
nous n'arrivons
détruit
pas à nous chauffer.
Toute, l'idéologie a détruit toute rationalité. C'est-à-dire que l'idéologie prend tellement de place parce qu'elle alimente le discours de certains partis politiques. Donc c'est de l'électoralisme, c'est même pas la volonté de vouloir répondre une vérité, c'est juste... complètement anéantir le discours gobelin rationnel pour des voix en plus. Et non, vraiment, moi, ça me rend malade.
Armand, je vous ai eu au téléphone il y a quelques jours et vous m'avez dit.
Et j'avais chaud.
Je vous ai dit, j'ai chaud.
Je n'arrive pas à dormir, mais vous avez quand même réussi à trouver une clim.
J'ai quand même réussi à trouver une clim, donc je suis un méchant.
Mais l'ascenseur
je fais partie
cassé,
des méchants.
Donc il a dû faire 10 étages.
Et je fais partie désormais des méchants qui ont une clim à la maison, voilà. Avec une clim qui a été très lourde pendant 10 étages.
Juste un chiffre, vous avez un pays ici. L'Espagne, les foyers climatisés sont 57%, en France 24%. Ouais. Pourquoi l'Espagne? Pourquoi la France?
Les écoles en France, c'est genre 13%, je crois.
Oui, je crois, je sais pas. Oui, c'est
après, il y a, pour la solution politique, pour la réponse politique, quelque chose qui est d'assez hypocrite de la part de ces écolos. Qui a construit les dalles en béton? La végétalisation, on est, je pense, à 100% tous pour. Hein. Il faut évidemment végétaliser les centres-villes et autres. Évidemment que ça absorbe le CO2, évidemment que c'est très bon aussi pour le climat. On veut tous une ville végétale, ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Pourtant, l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien climatiser en attendant pour éviter de mourir juste dans les hôpitaux et dans les EHPAD, et même chez soi, parce qu'il y a beaucoup de gens précaires, les étudiants et autres qui ne peuvent pas, malheureusement, se payer une climatisation décente, qui décèdent de la chaleur. On peut juste préserver des vies, végétaliser en attendant la ville. Et ensuite, on supprimera
mais
cette ligne.
Le point de vue des...
Mais qui a mis ces dalles à Paris?
Oui, c'est ça. Je
on a eu cette conversation. Est-ce que vous trouvez ça utopiste, le discours de Marine Le Pen qui veut donner des clims à tout le monde?
Oui. Faut l'argent. Hein. C'est... Non, mais qui c'est qui les paye
la climatisation.
Climatisation à tout le monde.
Écoutez, peut-être certains budgets gouvernementaux gagneraient à être revus et corrigés. Non
ça, c'est vrai.
Quand on donne 90 milliards à l'Ukraine, pardon, je veux bien qu'on donne 90 milliards à l'Ukraine, mais peut-être qu'on pourrait s'occuper un tout petit peu des petits Français d'ici, ce serait...
Eliott, vous trouvez que c'est une bonne solution?
Non. Sauf que d'accord, c'est complètement... Merci. Non, mais vraiment, arrêtons de vouloir faire de l'électoralisme débile. Soyons un peu rationnels. On réfléchit à ce qu'on peut mettre en place rapidement, sans vouloir dire « on va offrir, on va faire ci, on va faire ça ». On va arrêter de faire des budgets pour tout, on donne gracieusement des choses, et on va dire... On vous permet un accès plus rapide sous un règlement différé, sur des choses comme ça, et on arrête de faire des crédits et de vouloir être utopiste alors qu'on sait très bien que ça ne sera pas réalisable.
Vous avez l'anecdote de la famille de l'école où il y avait une classe il y a deux anecdotes. En fait, il y a une classe d'école où les élèves crèvent de chaud et les parents d'élèves se sont cotisés pour acheter une climatisation pour la classe. Et alors, en fait, ils ont ramené la climatisation à l'école et la directrice a dit « Non mais attendez, on peut pas faire ça parce que comment vont faire toutes les autres classes ? Il y aura un système inégalitaire où il y aura que cette classe qui aura la climatisation et les autres non. Donc on peut pas vous laisser mettre cette clim pour vos enfants parce que sinon c'est inégalitaire.
Et on est ça encore... pourrait donner un bon exemple aux autres classes.
Ouais, mais du coup, c'est encore à nous de financer des choses qui devraient être mises en place. Par
déjà,
des institutions.
C'est aux parents de faire ce financement, mais en plus, ça se crée soi-disant la jalousie. Mais alors, il y a ça pour l'école, mais il y a pire. Il y a ça
dans l'hôpital aussi.
Il y a ça dans l'hôpital, ce que j'allais dire. Dans grand-mère. Un hôpital, il y a un papa qui avait sa maman. Il y a un gars qui avait sa maman.
Sa grand-mère.
Qui avait genre 75 ans, qui était à l'hôpital. Elle avait super chaud. Il lui a amené une climatisation qu'il avait achetée. Elle était prête, il l'avait payée. Il l'a ramenée à l'hôpital et on lui a dit non. Les autres personnes hospitalisées vont être jalouses, c'est inégalitaire vis-à-vis d'eux. On vit dans une société où on préfère que tout le monde soit au ras des pâquerettes en termes de confort plutôt que quelques personnes profitent de choses qu'ils ont mérité d'avoir.
C'est du communisme.
C'est littéralement l'idéologie communiste sociale.
Ce qui est hallucinant dans cette histoire, c'est ça, c'est que absolument la France a les moyens de se payer la climatisation. Et il y a les moyens. Faut pas se raconter des histoires. Il y a totalement les moyens. Simplement, les princes qui nous gouvernent, ils choisissent.
De l'avoir.
Posez-vous la question.
De l'avoir. Hein? Pour eux.
Ah bah ça c'est déjà depuis longtemps.
Pour rester sur le sujet de la canicule, moi j'avais un coup de gueule. C'était l'interdiction de la vente d'alcool. Ouais. La semaine dernière, j'ai trouvé ça choquant. C'est-à-dire, dans quel pays, à part à l'époque de la prohibition aux États-Unis, dans quel pays on interdit à ses citoyens de vouloir agir comme ils le souhaitent? C'est-à-dire, j'ai trouvé ça scandaleux. Armand, vous qui êtes
vous qui êtes un pochetron, racontez-nous comment vous. D'ailleurs, pourquoi il n'y a pas de boisson à Radio Courtoisie là?
Non, vous avez une petite bouteille.
Ah, bravo.
Vous voulez une bouteille en verre, peut-être.
Formidable.
On a malheureusement que de l'eau. Non, mais plus sérieusement, moi, encore une fois, hein, c'est liberticide comme décret, interdit d'interdire. Toujours, on interdit. En pensant que les gens sont trop stupides, pas assez grands pour décider d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, on a le droit de vote, on a le droit de conduire, on a le droit d'avoir des enfants, on a le droit de travailler. Mais on n'est pas suffisamment mature, on n'est pas suffisamment intelligent pour savoir si on a le droit de boire de l'alcool ou non.
Ah, parce que la logique de leur interdiction, c'est que l'alcool favorise la déshydratation, que la canicule favorise aussi la déshydratation et que le combo des deux peut entraîner des sensations dans bah, c'est ça la logique.
Arrêtons de fumer parce que ça va assécher les voies respiratoires et qu'avec la canicule on peut mourir.
Ce qui est fou, c'est qu'on rentre dans ce truc d'interdiction au lieu de faire de la prévention ou d'expliquer. Ils nous prennent littéralement pour des enfants. Ils se disent de toute façon, ils vont pas comprendre le concept. Ils vont pas comprendre le concept de déshydratation avec l'alcool, c'est trop compliqué pour eux, donc on va interdire. Je vois vraiment les politiciens comme ça.
Les citoyens français.
Mais vous savez ce qui se passe, c'est que tout le monde prend de la vodka comme ça ressemble à l'eau. Donc on met ça là-dedans et puis on se met là-bas.
J'ai trouvé ça absolument scandaleux. C'est comme, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais moi j'ai ça dans mon Monoprix, je peux pas acheter d'alcool le dimanche.
Mais il y a des quartiers où ils ont interdit l'alcool aussi.
Pourquoi ?
Bah c'est fermé.
Oui, mais c'est pour une question de sécurité. C'est que le soir, parfois, il y a une clientèle un peu.
Non, la journée.
Ah, la journée, ok.
Vous ne pouvez pas acheter l'alcool.
Je sais que vous n'avez pas le droit de boire.
Non, mais c'est vrai.
Parce que je sais qu'il y a certains magasins qui arrêtent le rayon alcool à partir d'une certaine heure. Parce que bon, c'est pour éviter d'avoir.
En l'occurrence, je me souviens plus exactement de la raison, mais à partir du moment où je vais dans un magasin pour acheter une bonne bouteille et que j'ai envie de profiter avec mes amis, j'ai pas envie que je ne sais pas quelle politique j'en connais.
J'en ai un coup sur la patate pour cette histoire.
Non, mais ne rentrez pas dans ce domaine. Rappelez-vous les débuts du Covid où il y avait les articles de première nécessité ou de seconde nécessité.
Oui, c'est vrai.
Vous avez le droit d'avoir telle chose et pas telle chose.
Mais est-ce que vous vous souvenez justement de cette fameuse vidéo où des policiers arrêtent une dame qui avait beaucoup de coca?
Oui, vous préparez une gastro, madame.
Non, parce que c'est quand même fou.
Non, mais c'est quand même hallucinant, encore une fois. Surtout que là, vous avez vu, cette semaine, on a décidé qu'on avait le droit de choisir sa mort. On a le droit de choisir sa mort, mais pas de boire d'alcool ou non. Bon, allez comprendre. D'un côté, on a une liberté absolue, et de l'autre, absolument
aucune. Je pensais qu'on parlerait de Badinter et de la peine de mort et de l'euthanasie en même temps. Un sujet sur Citizen Vigilante, on y arrive maintenant.
Permis de tuer des gens à cause de l'absence de clim, mais contre la peine de mort. Attention.
On continue avec une actualité plus légère, mais qui dit beaucoup de choses sur notre rapport à la vieillesse et à la télévision. Michel Drucker, 83 ans, a annoncé qu'il repartait pour une 64e saison de Vivement Dimanche sur France 3. Une nouvelle qui devrait réjouir ses fans, mais qui a provoqué une petite bombe sur RMC, où Alain Marchal, des grandes gueules, a carrément réclamé son arrêt. On écoute.
Moi, il y a une chose qui m'embête. C'est quand tu vois les gens vieillir et être diminués à la télévision.
Oui, c'est ça.
Et avec tout le respect que j'ai pour Michel, je trouve que la télévision, quand t'as
été... pas fait pour les vieux ?
Ouais. Si je dois avoir un accident physique ou si je me sens pas, j'ai pas envie que les téléspectateurs me voient avoir du mal à respirer.
Oui,
tu vois, avoir du mal
là, c'est pas
à respirer. C'est le cas de Michel. Et je trouve ça dommage parce que du coup, d'année en année, tu vois la personne décliner.
Ah, oui.
La télévision, c'est pas fait pour ça. La télévision, c'est pas pour te voir petit à petit t'éteindre comme une chandelle. Avec tout le respect que j'ai pour lui, pour sa carrière, il a tout fait.
C'est bizarre parce qu'en même temps, on voit des vieux rockers monter sur scène et on pourrait dire la même chose.
Renaud, c'est gênant de le voir aujourd'hui.
Parce que Renaud,
Sinatra, il chantait faux.
Mais Renaud, parce qu'il est dans un état de santé.
Il faut arrêter. Il y a un moment, il faut arrêter.
Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je suis choqué. Enfin, je veux dire, c'est complètement stupide. Enfin,
c'est quoi l'état de Drucker actuellement pour ceux qui regardent justement?
Bah, il va très bien.
Écoutez, les conneries de ça, ça dépend de quelle état de santé vous êtes. Edgar Morin, l'un des plus grands sociologues français, est mort à 104 ans. Je t'assure, je l'ai vu à 102 ans, il avait encore toute sa tête. Il la plaît aux gens, quoi.
Ouais, complètement.
Simplement, moi, il veut sa place, quoi.
Armand.
Bon, moi, je trouve ça assez dégueulasse de sa part et assez choquant, pour être très franc. De parler de quelqu'un comme ça. Enfin, aujourd'hui, Michel Drucker continue de remplir ses plateaux. Je crois que les audiences sont encore trop bonnes, très bonnes. Je vois pas ce jeunisme absolu venir. C'est-à-dire que tant que quelqu'un est bon, encore une fois, on est dans une société de mérite normalement, dans une société d'efficacité. Quand quelqu'un est bon, il reste. Il y a pas besoin de mettre un jeune pour mettre un jeune.
Il y a ce débat avec Question pour un champion aussi. Je sais pas si vous avez suivi.
Oui, avec Samuel.
Question pour un champion. Samuel Etienne, que je connais assez personnellement en plus. On lui a retiré les émissions en semaine. Oui. Du coup, il lui en reste plus quelques-unes le soir. Alors que c'est le top audience de France Télévisions.
Et alors qu'il était meilleur.
Et il était au max. Genre, voilà. Et en fait, c'est juste une volonté absolument de vouloir rafraîchir parce qu'ils se disent oh là là, on est dépassé, le jour où tous les boomers vont mourir, ils vont arrêter l'émission. Alors qu'en plus, pas du tout, on a Étoile sur Twitch qui fait des émissions Question pour un champion. Ça fait énormément d'audience, c'est complètement.
Bah, je vous rappelle quand même que ce dit une certaine Delphine Arnault, PDG de France Télévisions, il y a trop de mâles blancs de plus de 50 ans.
50 ans.
Ouais. À 50 ans, c'est déjà attention.
Non, mais qu'on favorise l'accession à des émissions, celles de jeunes ou de nouvelles générations, etc. Ça, c'est un autre débat. Oui, c'est un débat parallèle. Voilà.
Bah, c'est comme nous, à Radio Courtoisie.
Bah, quand quelqu'un est bon, on le garde.
Il y a des jeunes, il y a des personnes plus âgées, il y a de tout. C'est bien de représenter aussi. On a une population aussi qui est vieillissante et qui ne se sent pas forcément représentée par des gens trop jeunes ou qui n'ont pas la même expérience.
Heureusement, regardez Hamza, place aux jeunes.
Moi, j'ai un petit problème sur ce discours d'Alain Marchal. C'est. En fait, je ne comprends pas ce qu'il veut nous dire. Ce qu'il veut nous dire que Michel Drucker n'a plus le droit de faire de la télé parce que il va beaucoup à l'hôpital parce qu'il a des problèmes de santé de temps en temps, ou est-ce que on lui donne pas accès à des plateaux sur des chaînes un peu plus comment dire, plus tôt dans la numérotation, que ce soit sur TF1, sur France Télé ou sur le groupe M6. C'est ça que je comprends pas, parce que en fait, il y a des jeunes. Quand on parle de Samuel Etienne ou de France Télé, ils ont fait rentrer des jeunes. Il y a Cyril Ferraud, il y a Théo Curin, il y a Camille Combal qui est rentré sur TF1, il y a Cyril Hanouna sur M6 avec d'autres jeunes, avec Eric Antoine, avec Juju Fitcats, il y a d'autres gens. Donc, il est où le combat? C'est de dire j'ai pas de place sur ces plateaux-là et du coup je veux y aller et j'aime pas ce que je fais, ou il y a trop de vieux. Je ne comprends pas. En plus, Delphine Arnault, elle a coupé la tête à tout le monde.
Moi, j'ai l'impression que c'est un peu un non-sujet. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à la fin de la conf de Reda, ils ont dit tiens, bah attends, d'ailleurs, il y a Michel Drucker, là, le yeuve, là, qui veut encore rester. Ils se sont dit ah bah tiens, c'est un bon sujet.
Ouais, il appelle du vide encore. Il a juste un truc à dire. Il est tombé dans un tunnel.
C'est dommage parce que moi, j'aime beaucoup cette émission Les Grandes Gueules, mais
et vivement dimanche.
Et puis,
non, vous pouvez plus boire le dimanche, vous êtes obligé de regarder vivement dimanche.
Il venait d'avoir 108 ans.
Et bah,
il était beau comme un enfant.
En parlant de vivement dimanche, faut être honnête. Aujourd'hui, vivement dimanche sans Michel Drucker, ça n'existe pas. Il y a des animateurs qui sont plus puissants que leur concept et Michel Drucker en fait partie.
Ah, complètement. Ah, bah, c'est peut-être le problème aussi, c'est qu'on veut récupérer le créneau.
Voilà, c'est peut-être ça qui est beaucoup plus intéressant.
C'est comme moi, ça m'a fait mal au cœur. C'est une histoire qui a été un peu étouffée, c'est celle de Tex. Et je trouve qu'on l'a un peu. Vous n'êtes pas d'accord?
Non, je vous laisse continuer.
Vous comprenez pas le rapport? Non, je trouve que bon, il a eu ses propos.
Attends, il y a juste eu la blague, et moi je me rappelle plus exactement. Il a fait une blague et s'est fait virer.
Oui, c'est ça. Et en fait, je pense que c'est un prétexte. Et effectivement, ça va dans la même ligne de vouloir dégager les mâles blancs d'un certain âge. Et c'est pourtant, il était très bon. Enfin, moi, j'ai adoré faire des plateaux avec lui.
Les amours, ça existe encore?
Non, je crois pas.
Bah, l'émission, elle est morte avec lui, je pense. Enfin, elle est...
je crois qu'elle a été présentée par Bruno Guillon après.
Et... Ouais,
elle a été présentée un petit temps, elle a pas, faute d'audience, elle a été déprogrammée.
Ouais, c'est ça. Non, parce que, comme on disait, les concepts, des fois, c'est juste la personne qui est avec le concept.
Bah, c'est les incarnants.
C'est les incarnants, bien sûr.
Tiens, mais en parlant d'incarnants, Mano Brich, sur son bateau, un deux poids, deux mesures, on ne va pas se mentir, il y a des polémiques qui paraissent anecdotiques, mais qui disent beaucoup de choses. Mano Brich, eurodéputée insoumise, connue pour ses attaques répétées contre les yachts de milliardaires et le mode de vie des ultra-riches, s'est retrouvée elle-même filmée sur un bateau, et forcément, ça n'a pas manqué de faire réagir. C'était le vendredi 26 juin, des images de Mano Brich à bord d'un voilier ont circulé en ligne, diffusées par une militante de droite. En quelques heures, des centaines de messages sur X l'ont accusé d'appliquer un deux poids deux mesures. Armand, vous en pensez quoi?
Bah, je vais prendre la défense de Manon Brie. Manon Brie est sur un voilier, elle n'est pas sur un yacht de milliardaire ou
d'accord.
autre. Elle est juste sur un petit voilier.
Excusez-moi,
mais les députés, elles travaillent, elles touchent de l'argent, encore heureux qu'elles dépensent son argent comme elles veulent. Et je crois que c'est un voilier qui a en plus d'un certain âge et autres. Encore une fois, enfin, je comprends même pas où est la polémique. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'elle doit pas avoir de voiture parce qu'elle est écolo, elle doit pas prendre de vélo, elle doit marcher, elle doit vivre comme une pouilleuse parce que c'est le rôle qu'on lui a attribué. Et elle a encore heureux qu'elle dépense.
Il y a qui agite son stylo.
Encore heureux qu'elle dépense son argent comme elle veut.
Mais enfin, non, mais parce que je vois pas où est la polémique. Le problème, c'est pas qu'il y ait une polémique, c'est qu'elle accepte pas de dire bah justement, mais je travaille, j'ai le droit de me payer ce que je veux si je décide de louer. Mais elle le fait pas. Elle trouve des prétextes. Elle a dit quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit pour se défendre?
Elle a expliqué qu'il s'agissait d'un bateau à voile loué en famille à la journée pour l'anniversaire de son père,
pour un coût
annoncé de 70 euros par personne et par jour.
Je crois que son père
est né
en janvier.
Elle précise que ce week-end était prévu depuis un an.
Ah, mais c'est trop. En gros, bon, les gens s'énervent. Les gens s'énervent pour un nombril parce que ça fait. Moi, je suis sur Twitter et je vois tous ces petits trucs, ces simagrées de politiciens. Et Manon Brie, elle est tout le temps sur le qui-vive pour aller. Parler des petits trucs, genre, oh tiens, l'assiette, il a de la Saint-Jacques, lui, il est sur son grand bateau, c'est tous les jours un nouveau truc sur la vie privée des gens. Elle est vraiment dans ce truc à s'immiscer, à critiquer le moindre petit truc pour essayer de jeter l'opprobre comme ça. Et donc les gens sont en mode, attends, Maintenant, on va te faire la même chose pour que tu comprennes et tu vas goûter à ton propre poison.
Mais pour vous, c'est mérité ?
Non, c'est pas. Bah, moi, je suis pas pour qu'on se fasse justice comme ça, parce que bon, c'est un peu ridicule. Mais bon, c'est drôle de jouer sur le truc. C'est un peu du rage bait, comme on appelle ça. Mmh. C'est vraiment. C'est, on le croit. Moi, je suis.
Vous pouvez dire pour nos éditeurs qui ne sauront pas ce que c'est.
On n'y croit pas vraiment, on cherche juste à énerver l'autre.
D'accord.
Voilà, donc en gros, moi, je suis complètement de même avis que Armand. C'est-à-dire que je considère que c'est un peu nul de critiquer le fait qu'elle était sur son voilier. Mais en fait, qu'elle arrête de se mêler de tout et de tout politiser. Le truc privé que fait quelqu'un, elle va le publier pour donner son...
C'est un retour de bâton, quoi.
C'est un retour de bâton classique, voilà. et il fallait que ça lui retombe dessus pour qu'elle arrête ses conneries, parce que c'est ce petit discours constamment de culpabiliser les gens d'avoir de l'argent, de faire des choses avec leur argent, et de c'est trop facile, en fait, d'avoir ce discours, et c'est... Voilà.
André, vous êtes blasé.
Ah, ouais. Non, c'est pas que je suis blasé, non. Ce qui est irritant, et effectivement, on l'a dit, c'est... Effectivement, enfin, je suis aussi de l'avis d'Armand, mais de votre avis aussi, pour une raison très simple, parce qu'effectivement, elle a le droit de louer un voilier pour son père, même si c'est pas la date de l'anniversaire, etc. Le problème, c'est qu'elle fait... Elle est fait caguer, pardon de l'expression, avec tout le temps d'attaquer le homard de machin, oui. le repas de machin, etc. Et elle est dans son idéologie totale. Pourquoi ces gens-là fatiguent ces idéologues, absolument? C'est qu'ils sont là en disant, oui, regardez celui-là, il a fait ça, celui-là, il fait ça, Bolloré, machin, compagnie. Bon, très très bien. Et après, quand on touche à eux, à leur vie, à eux, ils hurlent à la mort. C'est un problème. C'est moi, ce qui me tue, c'est ces deux poids, deux mesures. Mais accepte d'assumer. Tu es un personnage public.
Tu gagnes très bien ta vie.
C'est tout. Et tu
vous avez
ta
vu
vie,
la
voilà.
photo qui est sortie là aujourd'hui
Sur le taxi.
La business class.
Ah oui.
La
première classe pour le Liban, là.
Ouais. Ouais. Il faut dire un truc. Elle est eurodéputée. Elle gagne, je crois, aux alentours de 12 000 euros.
Avec les représentations.
Exactement, à peu près. Donc, il y a un truc qui est aussi fou, c'est qu'elle a le train qui est remboursé, si je ne me trompe pas. Elle a des assistants parlementaires, donc elle a des gens qui travaillent. Elle peut se déplacer en train comme elle veut. Il y a un moment, il faut bien qu'elle dépense son argent. Faut comprendre. Après, qu'elle assume de dépenser son argent comme n'importe quelle personne qui vit.
Non, tu peux pas
arrêter de critiquer les autres qui le dépensent. C'est juste ça. Si elle était un peu honnête, c'est ça qu'on demande en fait à la gauche, c'est d'être honnête. Vous vivez avec beaucoup d'argent. Vous aimez dépenser comme tout le monde. Vous aimez acheter des trucs. Vous aimez être beau. Vous aimez aller dans des endroits classe. Vous aimez manger des trucs propres. Bon. Et vous n'assumez pas qu'on vous critique dès que vous le dépensez. C'est ça la différence entre la droite et la gauche, c'est qu'il y en a qui assument et qui font tout pour gagner beaucoup d'argent, il y en a d'autres qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui se cachent sous prétexte qu'ils sont de gauche. C'est ça, moi, le problème que j'ai.
Oui, mais je crois pas que la différence... Je crois qu'il y a des hypocrites de droite autant qu'ils...
Oui, bien sûr.
Vous savez très bien. Le problème terrible, c'est qu'ils ne veulent pas assumer, ces gens personnages publics, ils ne veulent pas assumer que malheureusement, la transparence et la vie privée n'existent plus dans ces cas-là. Regardez l'histoire, on ne va pas épiloguer là-dessus. Moi, j'ai rien écrit là-dessus. L'histoire de Macron et de Brigitte Macron. Ça fait les gorges chaudes dans le monde entier. Bon, moi, je vais vous dire là-dessus, je n'ai pas écrit, c'est pourquoi ? Parce que je me fous de savoir ce qui est sa femme et tout, et ce qui fait le job ou pas. L'important pour les personnages publics, est-ce qu'ils font leur travail ? Est-ce qu'ils font leur boulot ? Est-ce qu'ils sont compétents dans leur boulot ou pas ? Moi, je me fiche totalement.
Ce qui impacte les gens, ce qui est en rapport avec la vie des gens.
Ce que font les gens.
Malheureusement, j'ai l'impression que c'est surtout les réseaux sociaux qui motivent ces débats un peu stupides. C'est que maintenant, on est plus sur de l'image, du choc, plutôt que sur du vrai débat de fond. Et je pense que c'est pour ça, quand on a une image de Manon Aubry qui est en première classe, mais qui derrière dit certaines choses, qui défend l'écologie, etc., bah pour les jeunes, ça marque plus qu'un long discours. Et je pense que c'est pour ça que ça fait des débats.
Moi, personnellement, l'image du taxi m'a vraiment choqué.
Pourquoi ?
Elle donne sa valise sans âme.
Non, mais c'est juste qu'on est dans une personne qui représente tout l'aspect social d'un parti qui est censé tendre sa main à l'autre, avoir un regard qui est censé être pertinent et empathique envers son prochain.
Oui.
Et vraiment, elle est... Bon, je me doute qu'elle doit être fatiguée et tout, mais moi, je trouve que la politesse, ce n'est pas une question de forme. Ça doit être tout le temps...
Mais il faut savoir comment ça s'est passé et tout, c'est pour ça.
On ne sait pas.
Vous voyez l'image où elle tend son
truc.
On
n'a pas le contexte.
Non, moi, je trouve que tu ne peux pas critiquer en permanence justement le mode des riches et prendre la première classe. C'est ça le problème.
Bien sûr.
Et je pense que plus globalement, les députés de gauche, il faut qu'ils comprennent un truc, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des privilégiés. En fait, ils ont changé de classe sociale. C'est Jules Geoffrin. On n'est plus prolétaire une fois qu'on est devenu député.
Mais ça, c'est toute l'histoire des années 80. Qu'est-ce qui s'est passé à gauche? Ils ont découvert l'escalier de service, ils sont rentrés, ils ont vu les fourchettes en or. Waouh, ouais. Par ici la bonne souffle. Normal, tu vois.
Donc c'est ça, il faut juste qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, bah, ils ne sont plus les prolétaires qu'ils prétendent être.
En parlant de bateau, est-ce que vous connaissez ce jeu où le principe est simple? Je vous donne deux personnalités politiques au public et vous devez choisir laquelle vous gardez sur le bateau.
Oh là là.
Armand va commencer avec vous.
Super.
Laquelle on coule ou laquelle on garde sur le bateau?
Alors non, on avait dit juste jeter du bateau. Alors après couler.
Je suis sur le bateau parce qu'il coule sinon.
Vous allez devoir choisir la personne que vous gardez à bord.
D'accord.
Jordan Bardella ou Marine Le Pen?
Ouah, dur. Bah Jordan Bardella est plus jeune.
Plus d'années à vivre.
Oui, c'est ça. Mon choix a vraiment été juste pragmatico-pragmatique. Après, si c'est en question de sympathie, je pense que j'aurais plus de discussions intéressantes avec Marine Le Pen qu'avec Jordan Bardella. Même si on pourrait parler de Call of Duty. Mais voilà.
Ou de chat.
Ah bah oui, c'est vrai. Bon, bah finalement, je garde Jordan.
André, vous choisissez qui?
Toujours entre Marine Le Pen et Bardella.
Bah, vous pouvez les couler les deux si vous voulez.
Non, le problème, je sais pas avec qui j'aurais le plus envie de parler, quoi.
Ah ouais,
c'est honnêtement, ça m'est difficile. Parce que disons que j'ai plus de sympathie pour Marine Le Pen. Je connais pas Bardella, mais je ne sais pas. Je peux pas vous raconter l'histoire, mais je vous raconterai une autre histoire un jour avec Gainsbourg et Le Pen, mais c'est une autre histoire. Une autre émission.
Bah, sinon, on saute à l'eau et on se retrouve au rivage, André.
Ça douche.
Franchement, je vais choisir Bardella parce que j'ai l'impression. Alors là, c'est vraiment une conviction politique que j'ai, même si je reconnais le travail qu'elle a fait pendant des années, etc. C'est que je pense qu'elle est encore trop ancrée dans le socialisme et qu'il y a un petit espoir chez Bardella d'avoir un soupçon d'idée libérale. Je pense qu'il est plus ouvert à peut-être accepter une retraite par capitalisation. Là, c'est
on
vraiment
a bien
une...
compris, vous êtes ultra libéral.
Non, je ne suis pas ultra libéral, mais je pense que c'est le gros problème de notre société française, c'est la déficit vient des retraites. Et j'ai pas entendu Marine se prononcer sur ça, alors que Bardella, c'est déjà arrivé.
Elliot.
Jordan, je pense. Jordan Bardella.
Oui, c'était rapide. Hein.
Bah. Oui, bah oui. On a le même âge, on peut rigoler.
Tu coules Marine, du coup?
Non, je l'écoute pas. J'en veux l'avouer de loin.
La question vicieuse.
Tu vas l'avouer.
Eh ben, bravo.
Armand.
L'iceberg est dans Titanic.
Édouard Philippe ou Gabriel Attal?
Oh là là.
Wow, vous gardez qui?
Quel enfer.
Ah, compliqué, compliqué.
Et vous gardez qui, Bayan, entre les deux?
Moi, je garde Édouard Philippe.
Oh, ça a changé.
Ah bon?
Oh.
Qui c'est que je garde?
Vous voulez créer des embrouilles dans mon couple, vous?
Non, jamais de la vie.
Alors, je garde Gabriel Attal. Voilà.
Pourquoi?
Faites du mal à la droite.
Pourquoi vous posez la question? Vous savez très bien pourquoi.
Sur le bateau.
Non, pas parce que. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'amis en commun, voilà, c'est la seule raison.
Et voilà.
André?
Alors, ni l'un ni l'autre.
Très bien. Vous voulez les deux.
Alors, je coule les deux sans aucun problème.
Je fais exploser le bateau.
Vraiment, je fais, ouais, absolument.
Il y en a un qui me doit de l'argent, garde deux.
Bon, je garde pour. Je garde Gabriel Attal, là. Alors, les deux.
Je sais pas, j'ai quand même l'impression qu'on est dans la vibe du centre mou qui veut absolument. Non mais tu sais, c'est vraiment ce truc de. On fait de la politique pour faire de la politique. Moi, je peux plus les supporter, en fait.
Genre, on était plus pour une soirée sur un bateau. Hein. On était non, mais... pour la politique, hein, quand même.
Ouais, non mais. Ouais, franchement, je pense que j'en garde aucun des deux. Peut-être Gabriel Attal, à la limite, mais.
Ouais, moi, non.
Je sais pas. Ça me fait très peur de voir ces candidats au second tour, par exemple.
Elliot.
Faut pas croire qu'ils vont y être. Je garde aucun des deux non plus.
Bon, c'est vraiment trop facile.
Bah non, mais on va garder quoi Allez, je vais prendre Gabriel Attal, vous savez pourquoi?
Pourquoi?
Parce qu'au moins, il a fait moins de temps sous Emmanuel Macron.
Okay. Merci.
Le Premier ministre.
Non, j'ai compris. Vous gardez Gabriel Attal parce que les femmes et les enfants d'abord. Non, mais j'interprète.
Pour
quoi.
Le côté femme, pour le côté enfant.
Les deux, bon, général.
Ah bon, on va en faire une petite dernière.
Allez.
Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin?
Gérald Darmanin.
Pourquoi?
J'aurais peur d'être avec Bruno Le Maire.
André.
Alors, moi, je vais vous dire, et pourtant, je n'ai pas une sympathie particulière pour Gérald Darmanin, mais Bruno Le Maire, quand même, c'est le type qui a dit on va mettre à genoux l'économie russe, vous vous rappelez, il y a 4 ans,
oui,
avec le succès que l'on sait. Bruno Le Maire, il est fabuleux, quoi. Bruno Le Maire, pour moi, c'est l'incarnation de la médiocrité la plus totale. Donc, entre les deux, si vous me dites, je crois que Darmanin, oui.
Sardes.
Mais vraiment le moins pire.
Darmanin, pour les mêmes raisons, ouais, c'est... j'ai pas vraiment d'argument, là, franchement.
Ouais.
Moi, je vais prendre Bruno Le Maire juste pour voir son nouveau livre.
C'est tout.
Ah, parce que moi je rigole.
Vous faites des réponses très courtes.
Attends, t'as déjà lu l'ancien ?
Non, mais au moins comme ça je vais
l'accrocher. Et on te repose la question la semaine prochaine.
Depuis le début de cette émission, on a une tradition, Elliot. Oui. Avec qui aimeriez-vous partir en vacances ?
Encore ? Non, mais c'est pas possible. On s'approche des vacances. Je vais partir avec qui, moi ?
Vous n'avez pas le droit de dire la même personne.
Je vais partir avec.
C'est une bonne question.
Et vous devez nous donner une raison.
Je vais partir avec David Lisnard.
Pourquoi ?
Parce qu'il est très sympa, déjà de 1, et de 2, parce que j'aime beaucoup ses idées, donc j'ai envie de pousser pour lui.
Ok. Vous iriez où ?
Bon, je pense que. On va aller à la Guérite, à Cannes.
Ça, vous avez les moyens, vous. Sardoche.
Attends, parmi toutes les personnalités politiques ?
Oui.
C'est abusé, là.
Vous devez choisir l'endroit et la personne.
Ok, mais ça peut être quelqu'un. Alors, ouais, il est obligé de parler avec moi tous les soirs, tous les jours.
Oui.
Bah, vous êtes avec lui.
Non, mais alors déjà, on passait d'une soirée à beaucoup de vacances.
Non, mais ça peut être intéressant parce que je peux avoir le droit de. Enfin, il est obligé de parler qu'avec moi. On passe des moments ensemble.
Oh le pauvre.
Et genre, il est obligé. Il peut pas juste me ghoster, arrêter de me parler. Non, il est obligé de me raconter du bullshit.
Tu peux même le pécho à la fin des vacances.
Je prends Jean-Luc Mélenchon.
Le pécho, pardon. Parce que le pécho, il a répondu Jean-Luc Mélenchon.
Si je peux avoir une semaine pour essayer de décrypter qu'est-ce qui se passe dans son cerveau, essayer de comprendre si
tu vas finir le communiste, arrête.
C'est assez simple.
Un jour, je vous raconterai le jour où Jean-Luc Mélenchon m'a insulté devant 2 millions de personnes.
Je le comprends bien.
C'était
pour du vin, non ?
Il a dit que j'étais stupide et qu'il avait gagné des médailles dans je ne sais pas quel pays sud-américain. Voilà. Et que je ne connaissais rien à la politique.
Bah, tu vois, voilà ce que tu auras si tu veux avoir 15 jours.
Il avait tort.
André, choisissez un lieu et une personnalité politique.
Un lieu aussi ?
Ah oui, vous invitez.
Je l'invite pour une soirée, pour
non,
15 jours.
Non, vous passez des vacances, un séjour.
Alors, je vais vous dire, comme j'ai beaucoup de péchés à me faire pardonner, j'ai beaucoup de choses, vraiment, et je sais qu'à un moment donné, il faut que je paye. Où je paye très durement Sandrine Rousseau. Ça, c'est dans le cadre de mon masochisme exacerbé.
L'autoflagellation
est interdite.
Je vais pas raconter pour la dernière fois.
Oh là là.
Et vous, Armand ? Bah, vous, on sait. Hein.
Bah oui. Mais, on a
Gabriel
dit
Attal pour qu'il me rende mes thunes.
On a dit quelqu'un que j'ai pas dit jusqu'à maintenant. Et bah, Guillaume Casbarian dans sa circonscription autour d'un bon barbecue.
Ah, t'es bien.
Un bon barbecue. Enfin, bon.
Et moi, vous me posez pas la question ?
Mais moi, je me pose tous les jours la question, et on sait déjà.
Je partirai avec la personnalité de mon cœur, mon copain.
Voilà, mais je savais que c'était... qui est en politique, c'est ça ?
Et alors, votre truc de l'émission, parce que vous avez dit ça, qu'est-ce qui bouge le cul des Andalous ? C'est l'amour. Toi et moi, dans le même Bermuda, c'est l'amour. Bravo, c'est bien.
André, merci infiniment d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Également. Et
merci
puis les autres, j'ai l'habitude de vous, donc je ne vous remercie pas. Hein. Chers auditeurs, on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'On ne va pas se mentir.
On ne va pas se mentir avec Baya Carla et sa bande tous les samedis de 15h30 à 17h sur Radio Courtoisie.